Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 30 octobre 1996, diffusé dimanche 27 décembre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Bonsoir à tous et toutes nos excuses pour cet accompagnement, pour cette annonce d'ouverture sabotée. Excuse toute particulière à Jean Ferry qui n'aime pas du tout qu'on chahute la présentation.
Par un bruitage intempestif. Voilà.
Alors je ne dénoncerai pas l'auteur, mais enfin vous savez, je vous dis quand même que ce soir, autour de cette table, Alain Sanders, Bernard Anthony.
Bonsoir. Le bruit venait du feuillage de National Hebdo. Oui,
c'est quand même un bon bruit, allons.
Et musique. Victoria, voilà. Donc ce soir nous allons faire l'émission avec Alain Sanders, Bernard Anthony et Victoria, et moi-même. Ensuite, nous nous retrouvons comme très souvent chez la mère agitée, je vous le signale. Donc c'est 21 rue Campagne Première et vous téléphonez au 01 43 35 56 64. Demain, si vous préférez, ce sera le docteur Merlin qui chantera chez la mère agitée toujours. Et ça vaut quand même le coup d'aller l'entendre parce que il a de très très bonnes chansons. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh bien, pour l'instant, c'est tout. En ce qui concerne les annonces, j'en ferai ensuite, à la fin de l'émission, quelques autres. Je dois dire que je m'amuse beaucoup. Moi, je suis pas déçu du tout par l'actualité. Parce que, franchement, d'apprendre par la presse, par un hebdomadaire, dont je ne citerai pas le nom, par pure malice, que Monsieur Charles Hernu, ministre de la Défense, était un agent soviétique. Oh. Ça, c'est quand même. On s'ennuie pas dans ce pays. Et j'ai une amie. Enfin, nous avons à la maison une amie étrangère. Et quand elle a appris ça hier soir, elle était quand même très très ébranlée. Elle s'est demandé si la France était un pays bien sérieux. Hein. Voilà. Donc le ministre de la Défense en France a été, entre 1981 et 1985, le ministère de la Défense en France a été occupé par un agent soviétique qui s'appelait Charles Hernu, qui était en plus un haut dignitaire maçonnique, qui était vice-président de la LICRA, et qui était considéré comme un personnage tout à fait recommandable, sérieux, sérieux peut-être pas quand même, n'exagérons pas, mais enfin, un bon Français, voilà. On a appris que c'était...
Il était fils de gendarme, comme Pasqua.
Fils de gendarme, parce que, enfin, ça veut quand même pas dire que tous les fils de gendarme sont des...
Non, mais à partir d'un certain grade, il y a beaucoup de francs-maçons.
À partir d'un certain grade. Ça, c'est sûr. Je l'ai déjà dit, d'ailleurs, ça m'a déjà valu un rectificatif d'un officier supérieur de gendarmerie.
Oui, qui n'était pas lui. Oui,
bien. J'avais été un peu violent, tous les supérieurs, les officiers supérieurs de la gendarmerie sont francs-maçons. Et alors, non, c'est pas tout.
Mon propos n'est pas contre la gendarmerie, mais c'est parce qu'on campe des personnes comme ça, hein, qui vont à la messe de 11h quelquefois, et puis voilà, on dit, vous voyez, c'est une sorte du peuple, ils sont parfaitement crédibles, voilà pour Hernu.
Enfin, Hernu n'allait pas beaucoup à la messe de 11h, il allait plutôt à la tenue de 11h du soir, ou de 8h du soir. Mais, bon, l'histoire d'Hernu, d'abord, c'était une ordure, il faut dire les choses aussi clairement que ça, parce que il ne trahissait pas pour des motifs nobles. Parce qu'on peut imaginer un homme soit épris du régime soviétique, soit un communiste, et il se met au service du peuple, hein, de la dictature du prolétariat, et donc il est espion pour détruire un régime qu'il exècre, qui est un régime libéral capitaliste, social-démocrate. Ça, on peut l'imaginer. On le fusille, mais avec les honneurs. Tandis que Hernu, c'était uniquement pour le fric. Pour le fric, premièrement, et deuxièmement, pour cacher la vérité sur son passé. Parce que ça, si vous me faites l'honneur de lire le libre journal qui paraît demain, vous découvrirez que... Enfin, vous découvrirez...
Tu veux dire son passé sous l'occupation.
Son passé sous l'occupation. Oui, ce que personne n'a dit jusqu'à présent. Mmh. Alors, je raconte assez brièvement, mais assez complètement quand même, le passé dernier sous l'occupation. Il faut rappeler qu'il était... il était au secrétariat d'État à l'information, dont le patron était M. Paul Marion, qui était un déatiste. Et lui-même, Hernu, avait adhéré au Rassemblement National Populaire de Marcel Déa, et il occupait des fonctions très importantes, enfin très importantes, pas très importantes, mais des fonctions intéressantes.
Vu son âge pas très important,
oui,
mais intéressantes.
Il était très fortement militant, et il était si militant qu'on l'avait envoyé dans l'Isère, qui était un des départements les plus durs au point de vue de la résistance, et il était chargé de la propagande en milieu ouvrier, la propagande ouvrière. Ensuite, donc, il a été arrêté.
En 44, oui.
Il a été arrêté et libéré sur intervention de sa maîtresse,
qui était communiste.
Qui était une militante communiste.
Qui d'ailleurs se rapprochera des communistes à cette époque-là. Elle sera tuée dans des circonstances plus que troubles. Et il lui fera accuser un militant du PPF de cet assassinat, dont on n'a jamais su. Et il deviendra ensuite membre du Front, Front National Communiste de l'époque.
Oui, absolument, il est membre du Front National.
Et rédacteur en chef du Patriote Résistant ou un truc comme ça, et ça sera un féroce épurateur.
Et alors c'est ça, donc c'est à ce moment-là que les communistes ont fait main basse sur lui, avec la technique classique... des communistes, qui consistent à prendre des gens corrompus, pourris, compromis,
qui ont besoin d'argent,
pour les faire chanter et les tenir. Et donc ça a été le cas. Il a été embauché par les services spéciaux et il a fait la carrière qu'on sait. Alors deux choses. D'abord, on nous dit l'hebdomadaire qui révèle l'information dit avant d'être ministre de la Défense, François Mitterrand était un agent de l'Est. Alors ça voudrait dire François Mitterrand, Charles Hernu était un agent de l'Est. Alors ça voudrait dire, en somme, que le jour où il est devenu ministre, il a téléphoné à son officier traitant en lui disant, cher ami, je pense que vous comprendrez que maintenant que je suis ministre de la Défense, j'arrête. Je ne peux pas continuer, vous comprenez, j'ai des responsabilités importantes, je suis maintenant obligé d'être quand même un patriote sérieux, etc. C'est se foutre du monde.
Oui.
Agent soviétique un jour, agent soviétique toujours.
Bien sûr.
Parce que justement...
Et a fortiori quand tu montes en grade.
Et a fortiori.
Alors ce qui m'a fait rire, dans le même ordre d'idée, mais ça me fait froid dans le dos, c'est la déclaration d'Yves Bonnet, était chef de la DST à la même époque, et qui dit, je m'en suis jamais aperçu.
Voilà.
Alors, merci, alors on comprend beaucoup de choses.
Non mais c'est plutôt rassurant ça, parce que je rappelle qui est Yves Bonnet. Il était effectivement à l'époque directeur de la DST. Et alors il a dit, j'ai entendu son interview sur une radio, il a dit non moi je crois pas à ça parce que je me souviens que le ministre était violemment anticommuniste.
Il
parce que lui fait partie de ces crétins, il n'y a pas d'autre mot, qui pensent réellement qu'un agent soviétique,
comme la Poste,
voilà, le couteau entre les dents et il tient des discours marxistes du matin au soir. Non monsieur le préfet, quand vous pensez que la direction de la DST a été confiée à un type comme ça, c'est renversant. Pendant 5 ans, la DST, c'est-à-dire la sécurité du territoire, a été placée sous la direction d'un monsieur qui croit que
un espion
communiste a une fossée marteau et un marteau tatoué sur le front. C'est invraisemblable. Et maintenant, il nous dit que c'est pas vrai. Mais il y a pire. Il y a Fournet.
Oui.
Qui est le type qui est allé voir Mitterrand avec un dossier et qui a dit à Mitterrand, voilà, votre ministre, monsieur le président de la République, en 92, il est allé voir Mitterrand et il lui a dit, maintenant on a la preuve qui nous a été livrée par les services spéciaux soviétiques, enfin russes plus exactement, on a la preuve que monsieur Hernu, votre ministre de la Défense, votre ami Hernu, était un espion rouge. Voilà les preuves. Et Mitterrand lui dit, évidemment c'est très embêtant, mais c'est un secret d'État puisque de toute façon Hernu étant mort,
on enterre tout.
Et maintenant, Fournet vient dire, je ne suis pas certain de l'authenticité de cette affaire. Ce qui veut dire que M. Fournet essaye de nous fourrer dans le crâne, de nous enfourner dans la tête, l'idée qu'il aurait pu, en 92, aller voir le président de la République pour dénoncer comme agent soviétique un de ses plus proches amis,
dont il était
sans être sûr de l'authenticité du dossier. M. Fournet, il faudrait quand même pas nous prendre que pour des imbéciles, comme M. Bonnet, il faudrait pas nous prendre que pour des imbéciles. J'ai entendu Monsieur Mexando. Pourquoi Mexando? Alors là, je veux dire que si on veut choisir, évidemment, le plus emblématique des ministres socialistes, Il y a dans la crapulerie, il y en a d'autres, mais dans l'intelligence,
la joanesque.
Oui, il y a Mexando, évidemment, il est parfait Mexando. Alors, on est allé le voir, on lui dit qu'est-ce que vous en pensez. Il a dit non, j'en crois pas un mot. Il ne croit pas lui. Manque de chance. En fait, ce qui se passe, on voit très bien. On apprend d'autre part que M. Pasqua était au courant, que M. Balladur était au courant, donc que M. Chirac était au courant, que tous ces gens-là savaient que le ministre de la Défense de M. Mitterrand avait été un agent soviétique. Et il le savait en 92, c'est-à-dire au moment de la cohabitation. Mais c'est pas de la cohabitation, c'est de la complicité, c'est tout à fait différent. Car à l'époque, vous vous rendez compte du parti politique, qu'on pouvait tirer de la révélation que le président de la République avait choisi pour ministre de la Défense
un traître.
Ça aurait fait voler en éclats le socialisme pour 1000 ans. Ouais. Eh bien, M. Chirac n'a pas voulu le faire, M. Balladur n'a pas voulu le faire, M. Pasqua n'a pas voulu le faire.
Secret d'État.
Ces gens-là ont respecté un secret d'État qui était destiné à quoi ? À protéger la mafia socialiste qui aurait été détruite en quelque sorte, ou en tout cas très fortement atteinte, par la révélation qu'un de ces caïds était un traître. Pasqua, Balladur et Chirac, et bien d'autres, ont gardé le silence. Ils sont donc complices dans cette histoire. Et on voit bien cette société de connivence entre ce pouvoir prétendument de droite et le pouvoir réel de gauche. Cette connivence qui se réalise aujourd'hui, alors qui à l'époque se réalisait dans les couloirs, on se fait des petites combines dans les couloirs du Parlement, cher ami, vous en êtes un autre, etc., et qui se réalise maintenant ouvertement. On l'a vu à Marseille, par exemple, où M. Godin a donné l'ordre de voter pour le candidat communiste. Mais on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi ces gens-là ont cette attitude. Et je m'adresse là à tous les auditeurs de cette émission qui, chaque fois, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns, téléphonent au moment des élections en disant c'est le Front National qui fait passer les socialistes. Et ben voilà, c'est une sottise, je l'ai toujours dit. C'est une sottise monstrueuse, mais là, vous avez la preuve que vous dites des sottises quand vous dites ça. Le Front National défend des idées qui sont des idées nationales contre toute la camarilla, toutes les mafias politiciennes, tous ces pourris et ces traîtres dont vous avez aujourd'hui le spectacle de la connivence. La preuve de la connivence et de la complicité. C'est pour ça que cette histoire est aussi formidablement exemplaire. Et il faut savoir une chose, c'est que on est premièrement le rôle d'Ernu maintenant va être évidemment considérablement réduit. Mais la réalité, je rappelle que Ernu est rentré en politique en 50, enfin rentré en politique, il est rentré au Parti radical socialiste de M. Mendès France en 54, c'est-à-dire à l'époque où Mendès France était président du Conseil.
Il est rentré en 53 en politique.
53, oui, il est rentré chez Mendès en tout à fait au fin 53, début 54.
Il est élu en 56, Front Républicain.
Après, mais il était déjà dans l'entourage de Mendès, direct, et il travaillait avec Mendès. Or, 54, c'est l'époque où Mendès est à Genève pour négocier, dans des conditions d'ailleurs écœurantes, la paix avec le Vietnam. C'est-à-dire faire une action qui est une action qui est au service de l'Union soviétique, objectivement. Et c'est en 54, en août 54, que Mendès va faire avorter la communauté européenne de défense que les soviétiques voulaient faire avorter. Donc il a torpillé, il a encore une fois exécuté une action qui était une action au service, qui objectivement rendait service aux soviétiques. Et c'est la même époque où Monsieur Pack, Georges Pack, l'espion Georges Pack, l'homme qui va briser les relations, qui va en quelque sorte, l'homme dont l'action va obliger la France à quitter l'OTAN quelques années plus tard, va aboutir à ce que la France va quitter l'OTAN, eh bien Monsieur Georges Pack est au cabinet de Mendès France. Donc dans le cabinet de Mendès France à l'époque, il y a Georges Pack, il y a Ernu.
Il y a Mendès lui-même.
Oui, mais enfin, Mendès, on n'a pas encore de preuves.
Il est au moins sous influence.
Bon, évidemment, là, on voit bien qui sont les gens qui l'ont fait.
Il est au moins sous influence, puisque Khrouchtchev dira, jamais nous n'aurions imaginé que la France puisse reculer comme cela jusqu'au 17e parallèle. Ouais. Hein, Khrouchtchev ne comprend pas lui-même.
Enfin, il fait semblant de ne pas comprendre.
Il fait semblant de ne pas comprendre. Et on a peut-être la clé.
Hernu étant lui-même membre du mouvement de la paix, qui est très actif dans ce domaine-là.
Alors, il y a une auditrice qui nous dit, il y a des années que je savais que Charlie Hernu était un agent du KGB, comme je sais que monsieur, alors là, je ne peux pas lire le nom,
ouais, on risque de tomber sur le coup de la
est aussi actuellement un agent du KGB, mais ajoute-t-elle, peut-être n'est-ce pas le moment de le révéler. Effectivement, c'est, enfin, on ne sait pas dans cette émission qu'on va le faire, parce que c'est une question de moyens financiers, si vous voulez, là, vous voyez. On n'a pas des millions, faut bien dire. On n'a pas des millions.
Attendons que les archives sortent.
Si j'avais des millions, je dirais. Mais qui est le ministre qui appartient au KGB? Mais j'ai pas des millions. Donc je ferme mon four. Alors, pour en finir avec ce sujet, qui paraît ennuyer énormément Bernard Antony, je sais pas pourquoi, ça n'a pas l'air, mon cher Bernard.
Non, il est
ennuyé.
Pour en finir, je disais qu'on va tenter de réduire le rôle réel d'Hernu, qui à mon avis a été tout à fait considérable, et on finira bien par s'en apercevoir. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les tentatives de Fournet, Bonnet, Mexando, Enco, de jeter le discrédit ou de jeter le doute sur cette affaire, sont voués à l'échec. Premièrement, parce qu'il faut bien reconnaître que les deux journalistes qui ont publié, allez, je vais quand même donner le nom parce qu'ils ont fait un beau travail, c'est dans l'Express, et c'est Jean-Marie Ponto et l'autre dont le nom m'échappe.
C'est Jérôme Dupuis.
On trouvera un très bon résumé dans le journal présent d'aujourd'hui. Alain Sander a quelques scrupules à se citer lui-même, mais il y a un article synthétique qui, je pense...
En l'occurrence, je conseille de regarder dans l'Express, parce que ils ont fait un travail très sérieux. Très sérieux.
On peut emprunter l'Express.
Je reprocherai le titre de une, Charles Hernu, agent de l'Est, c'est un peu frileux. Ça n'était pas un agent d'un des quatre points cardinaux, c'est un agent communiste. Il faudrait dire, ou soviétique, il faut dire les choses. Voilà, c'est tout. Mais à part ça,
comme le papa de Monsieur Cotte.
Voilà, comme le papa
comme Monsieur Pierre Cotte.
Comme Monsieur Pierre Cotte, comme Monsieur Jean Moulin, Monsieur André Labarthe.
Ce qu'il faut dire aussi, je crois, Serge, c'est que je crois qu'il y a eu les soviétiques. Les services soviétiques misaient sur des jeunes hommes prometteurs ou sur lesquels on pouvait avoir des moyens de pression. Combien il y en a eu? 400, 4000, 40000, on ne le sait pas. Tous n'ont peut-être pas eu le cursus prometteur et glorieux d'Hernu. Mais est-ce qu'il n'en reste pas d'autres? Ça m'étonnerait que les soviétiques soient arrêtés à ce jeune Hernu.
Alors, justement, j'allais dire, d'une part, que les tentatives de jeter le doute vont courtes à l'échec, puisque l'ADST a effectué une enquête d'où il ressort qu'il y a une certitude du bien fondé de cette accusation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, il est certain que M. Hernu était un agent du KGB, et d'autre part, on sait que Balladur, quand il était Premier ministre, et alors que Juppé était ministre des Affaires étrangères, a reçu de la part des services britanniques qui avaient obtenu cette information, eux, des services de l'Est, la liste de 300 diplomates et fonctionnaires du Quai d'Orsay qui étaient au service du KGB. Ça, vous vous rendez compte? 300 diplomates et fonctionnaires du Quai d'Orsay. Alors, je ne sais pas combien il y a de diplomates et de fonctionnaires au Quai d'Orsay, mais il ne doit pas y en avoir 12 000.
Il faut rappeler que c'est Alexandre de Maranche qui déclarait lui-même, le chef le plus sérieux que l'on ait eu de notre contre-espionnage, qu'il y avait 50%, Alexandre de Maranche, 50% du personnel du Quai d'Orsay
qui était infiltré.
Enfin, qui était constitué d'infiltrés, pardon.
Voilà. Alors, il faut rappeler, on a cité Georges Pack, mais il faut rappeler que, j'insiste, d'autres personnalités de très haut niveau ont été convaincues d'avoir été des agents.
Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ça ne sort qu'au compte-gouttes, parce qu'effectivement, ces archives du KGB sont, à l'évidence, négociées par des gens qui ont besoin de sous. Donc, ils vont pas donner les 300 noms en question, ou les 4000... Tout de suite, il donne quelques gros poissons pour appâter le truc, et on aura d'autres surprises.
Attendez-vous à apprendre, comme disait Tabouille.
Oui.
Un auditeur nous dit, il y a un sujet dont vous ne parlez pas à propos de cette affaire, et pourtant, c'est l'affaire de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Et c'est vrai que. Bien sûr. À qui profite le crime?
Mais même, même dans l'affaire Greenpeace, on pourrait dire certains trucs. Mais enfin bon, il y a beaucoup de sujets là-dessus.
En 92, c'était pas encore la.
À quel moment Charles Hernu Serge est-il au mouvement de la paix?
Il crée lui-même d'ailleurs un organisme maçonnique qui s'appelle la Fraternelle des Amis de la Paix.
Des partisans de la paix. Il l'a créé à Vienne.
Voilà.
Et l'appel de Stockholm en quelle année?
Dans les années 50, si.
Diffuse l'appel de Stockholm?
C'est Chirac.
Était le chef de cellule de Chirac.
On peut rappeler qu'il a commencé au Grand Orient, qu'ensuite il a été membre de la loge Tolérance et Fidélité, de la Grande Loge de France. Il a créé ensuite la loge Foi et Politique, et en 85, à Vienne, il crée ce que tu venais de rappeler à l'instant, la Fraternelle maçonnique des partisans de la paix.
Ce qu'il faut savoir également, c'est que au Grand Orient de France, il appartenait à un atelier qui s'appelait Locarno 28. Il y a deux ateliers Locarno au Grand Orient, Locarno 28 et je crois Locarno 78 ou 76, je ne sais pas quoi.
Étrange Locarno.
Oui. Et Locarno, c'est le fameux traité de Locarno, le traité maçonnique par excellence et qui est célébré par les francs-maçons au point, je vous dis, qu'il y a deux ateliers qui portent ce nom. Voilà, alors je suis certain qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire, mais elle me paraît extraordinairement révélatrice de la pourriture totale de cette classe politique. Et je dis bien pas seulement des socialistes, parce que là, il y a la complicité dans le silence, et puis on attend, moi j'attends avec impatience, que d'autres noms nous soient livrés, qui ne seront pas forcément
comme la dame
des noms
tout
socialistes,
à l'heure.
Comme la dame tout à l'heure, oui. Et je pense par exemple que il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout socialiste, c'était le préfet Picard, qui n'était pas du tout un militant socialiste, et qui était bel et bien un agent soviétique.
Et ça se comprend. Je dirais que l'agent soviétique intelligent ne va pas recruter à la limite chez un communiste, parce qu'il n'en a même pas besoin. Il fait déjà un travail de sape. Et il le recrute chez un type qui est classé à droite, bien sûr.
Alors, une auditrice nous dit aujourd'hui sur France Info, on a dit que Charles Hernu était franc-maçon catholique, ça doit être une nouvelle loge.
Oui, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il jouait tout de même, je reviens sur mon propos, il jouait les fils de gendarmes patriotes et catholiques, ne l'oublions pas, mais parce qu'il était un agent intelligent, encore une fois. Hernu n'était pas minable et se parait donc de se porter patriotard, finalement, et il en est d'autres comme lui.
Alors, une auditrice nous dit, je voudrais aussi qu'on parle des agents communistes français vivants. Ben oui, c'est une bonne question, ça. Effectivement, on peut s'interroger sur les raisons qui font que la plupart des noms d'agents qui ont été livrés au public depuis quelques années sont des morts. André Labarthe, qui était, alors je rappelle pour les auditeurs qui ne le savent pas, qui était le directeur de la revue Constellation. La revue Constellation avait été payée par le KGB par financement du KGB directement. Pour contrer Sélection, qui était la revue de la CIA. Oui. Donc c'était assez rigolo. Quand on lisait les deux, c'était amusant comme tout.
C'était une copie. C'était moins bon, mais c'était une copie conforme.
C'était une
petite histoire avec
l'homme le plus
que j'ai rencontré. Voilà.
Et Jacques Bergier m'avait raconté une très belle histoire qui donnait à douter du sérieux d'André Labarthe. Mais comme depuis, on m'a dit que on m'a soutenu que Jacques Bergier lui-même était un agent soviétique, je finis par plus savoir exactement ce qu'il faut penser de tout ça. Mais il m'avait raconté. Lui disait qu'effectivement Labarthe était un agent soviétique, et il m'avait raconté que il lui avait extorqué beaucoup d'argent en lui présentant un jour l'ancien secrétaire de Staline. C'est-à-dire qu'il avait dégoté un gars qui parlait russe, qui parlait allemand, qui parlait anglais, français, etc. Et il lui avait dit, je vais vous présenter comme l'ancien secrétaire de Staline, on va vendre vos mémoires à Constellation à André Labarthe, et je les écrirai moi-même. Donc Bergier avait écrit les mémoires du secrétaire de Staline, et ça avait été publié, acheté à grand prix par Constellation, et publié dans Constellation. Et puis 5 ou 6 ans, ou 10 ans plus tard, Il faut savoir que ce faux secrétaire de Staline avait une très belle tête de kalmouk. C'est-à-dire que suivant que on le regardait par grand vent ou par temps de brouillard, il pouvait avoir l'air soit d'un occidental un peu asiate, soit d'un asiatique légèrement occidentalisé. Et donc, 10 ans plus tard, Bergier dit, ben, on avait fait, ça a bien marché les mémoires de Staline, maintenant on va faire les mémoires de Mao. Et pour les vendre à la Barthe, il va chercher le secrétaire de Staline qui se repointe et qui dit, vous savez que j'étais le secrétaire de Mao Tse-tung, mais en pensant pas du tout que la Barthe se souviendrait de lui. Et la Barthe le regarde, lui dit, mais c'est passionnant, vous avez eu une vie extraordinairement aventureuse. Voilà. Bon, alors ce Labarthe était donc un agent soviétique. Il y avait Jean Moulin qui était un agent soviétique aussi. Il y avait, on l'a dit tout
Pierre
à l'heure,
Pierre Cotte,
voilà.
Et aussi ministre important.
Qui fut ministre de l'aviation.
L'aviation au moment de la guerre d'Espagne.
Au moment de la guerre d'Espagne notamment, et puis après la non-préparation de nos soldats.
Mais tous ces gens-là sont morts. Alors les gens vivants, bien sûr, on se doute que... sinon agent de l'Union soviétique, du moins agent objectif du pouvoir communiste, ben, ça a été le cas de tous les ministres communistes qui ont été en France au gouvernement.
Je dirais naturellement.
Et oui, c'était naturel, c'est ça. Et je rappelle d'ailleurs que il y a quelques années, quand Nicole Questiot était secrétaire d'État, je sais plus à quelle fonction, mais enfin elle était secrétaire d'État.
Aux affaires sociales,
probablement. J'avais publié dans un hebdomadaire où j'exerçais à l'époque les fonctions de directeur la transcription d'une conversation téléphonique par radio-téléphone.
C'était dans Minute, pour pas dire le nom.
Oui, mais moi je le dis pas. Bon. par radio-téléphone, une conversation entre Nicole Questiot et je sais plus quel dirigeant, et je crois que c'était Krasuki, me semble-t-il, un dirigeant communiste de très haut niveau, auquel elle faisait le rapport d'une réunion du Conseil des ministres, tout simplement. Et elle racontait, le Conseil des ministres est évidemment confidentiel, et bien elle racontait, elle faisait son rapport à Krasuki. Donc on peut dire que Madame Question, en l'occurrence, était au moins un agent du Parti communiste au sein du gouvernement français. Et on aura certainement, dans les mois à venir et les années à venir, la révélation d'autres trahisons. Voilà.
Qui n'empêchera pas, comme à Gardanne, le Front républicain, voilà, de voter pour les communistes.
Alors, quand vous votez pour le Front républicain, sachez-le, vous votez pour ces gens-là. Voilà, il faut le savoir, il faut le dire autour de vous, je crois que c'est
important. Et même peut-être indirectement quand vous votez pour Chirac, par ricochet, par syllogisme.
Absolument. Alors, qu'attend-on pour publier la liste des 300 diplomates du Quai d'Orsay au service de Moscou? Nous demande un auditeur. Eh bien, je suppose qu'on attend qu'il soit mort, tout simplement.
Il faut bien, Serge, il y a une volonté d'enterrer, mais il faut bien se rendre compte que Mitterrand ou Chirac, en possession peut-être de ces noms-là, c'est un cataclysme s'il les donne. C'est des vies, c'est des familles, c'est des gens qui sont à la retraite, c'est une révolution s'ils balancent ces noms-là. Je me doute qu'ils hésitent aussi pour ça. Indépendamment des autres choses, parce qu'ils peuvent avoir des copains dans le tas.
Il y a un auditeur qui nous fait remarquer qu'il y a une dame qui doit être extrêmement peinée d'apprendre cette information. C'est Madame Juppé, Isabelle Juppé, l'actuelle épouse du Premier ministre, qui effectivement, quand elle était journaliste à La Croix, c'est d'ailleurs à l'occasion d'une interview de Juppé réalisée pour le journal La Croix, qu'elle avait fait la connaissance de l'homme qui allait devenir son futur mari. Eh bien, Isabelle Juppé était une grande amie de Monsieur Charles Hernu.
Oui.
Elle va être désespérée d'apprendre que les informations qu'elle a publiées dans La Croix pendant des années sur les questions militaires dont elle était la spécialiste, que ces informations donc lui étaient données par un agent soviétique. C'est quand même très très ennuyeux tout ça.
Ouais.
Hein, c'est vraiment que de soucis. D'ailleurs, Bernard Anthony a l'air positivement accablé.
Ben, accablé, quand j'apprends tout cela, parce que je ne me doutais pas de toutes ces choses. Je ne me doutais pas, en venant de la campagne, comme ça, que j'allais apprendre à Paris des choses qui sont passées.
Pas penser une seule seconde.
Pas une seconde, je ne pensais que nous puissions être...
Mais il n'y a pas qu'à Paris que le hernu fleurit. D'ailleurs, il était Villeurbanne, tiens.
nous dit à Villeurbanne, place de la Bascule, qui est devenue place des martyrs de la résistance, et à la mort de Hernu, place Charles Hernu, la plaque est donc devenue maintenant place des martyrs de la résistance Charles Hernu.
Et ça s'appelait place de la Bascule, ils auraient dû l'appeler place de la Balance.
Oui.
Était... Ah, on va peut-être pouvoir remettre le nom d'Alexis Carrel sur quelques plaques.
Oui.
Ça serait bien quand même.
Hein, c'est-à-dire qu'on va bien être obligé, une fois qu'on aura enlevé les noms de tous les agents soviétiques des plaques de rue, on va bien être obligé de trouver des noms. Alors, il restera Carrel, il restera
Maurras,
il restera, il va pas rester beaucoup de monde hein, entre les, non, ça c'est entre les pédophiles et les espions
et les corrompus.
Soviétiques et les pourris, ça
et
va.
Parfois, il y en a qui font la totale.
Mais je vous signale que il y a prescription en ce qui concerne le scandale de Panama, puisque Monsieur Eiffel va avoir sa tronche sur les billets de 200 francs.
Il ne portera plus le chapeau.
Faut dire que mettre la tête d'Eiffel sur des billets, ça s'imposait. Oui. Hein. Vous souvenez qu'on avait envisagé de mettre les frères Lumière, retiré parce qu'ils avaient appartenu à la Légion française, à la Légion des volontaires françaises, qui était très 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 mal pour... Ils avaient 80 ans à l'époque.
C'était la Légion des combattants. C'était pas du tout la LVF.
Enfin, qui était...
C'était des gens qui prêtaient simplement serment au maréchal Pétain. Qui n'avaient rien à voir avec la LVF, qui a été créée un peu plus tard d'ailleurs, que celle-là est...
Simple organisation.
Enfin, c'était des gens qui étaient de bons citoyens, tout bêtement.
Alors, des gens qui prêtent serment au maréchal Pétain, tu comprends, on peut pas non plus. Alors, parce que si on permet de mettre leur nom, pouvoir les retrouver à la présidence de la République.
Et pourtant, ils ont failli passer, tu le sais peut-être, c'est parce que un des deux frères Lumière était franc-maçon. Mais l'un n'a pas emporté l'autre.
Donc, on n'aura pas des billets de 200 francs Lumière, on aura des billets de 200 francs Eiffel.
C'est pas méchant bougre, ce seul.
Hein? Non, mais c'est pas
il a inventé le porte-jartel. Ça peut pas être entièrement mauvais.
C'était quand même un des héros de l'affaire de Panama.
On vous dit, ce n'était
leur
pas...
figure.
Pardon, ce n'était pas Madame Questio, mais Monsieur Jacques Ralit, qui correspondait avec Monsieur Krasucki.
Non.
Oui.
C'est moi qui publiais qui publiait le texte, alors je sais exactement de quoi je parle. C'était...
Ce qui n'oblitère pas Ralit du coup, hein.
Non. Quoi d'autre?
Quel a été le changement dans notre pays que Hernu ou autre était membre de la CIA ou agent communiste?
Oui.
Ah non, mais je suis tout à fait de cet avis. Je n'exonère pas
entre
du tout.
Entre parenthèses ironiques.
Non, ce qui est drôle, il y a une chose qu'on peut dire quand même à propos de ça. Ce qui est amusant, c'est que deux des meilleurs amis de Mitterrand étaient l'un, Charles Hernu, agent soviétique, ancien collaborationniste et franc-maçon, et l'autre,
François FFI,
et l'autre, François de Grosseur, ancien collaborateur ou collaborationniste, et lui qui était le patron du Gladio en France. C'est-à-dire le Gladio, c'est le réseau anticommuniste qui avait été monté par les Américains
tout de suite après la guerre.
Préparer la réaction, enfin l'éventuelle résistance à une invasion soviétique. Autrement dit, Mitterrand avait ces deux serfs libres, en quelque sorte, qui étaient susceptible, en cas d'incident grave international, de s'étriper dans son bureau. Hein. Oui. Le KGBiste...
Moi, je dirais que je préférais quand même l'un que l'autre.
Perdu.
Contrairement à la question de l'auditeur.
Se fritant avec le gladiateur Grosso.
Je suis plutôt Gladio que Faucille.
Moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reste en France, entre Français, et que ni les Américains, ni les Russes, ni les Allemands, ni les Espagnols...
Mais il y avait peu de risques.
Et j'en resterai là.
La différence à l'époque, c'est qu'on avait peu de chance de voir débarquer une armée américaine, mais qu'on avait l'armée rouge très près.
Ouais.
Voilà, il y avait des urgences. Il y avait des urgences.
Ouais.
Dans un autre genre.
Enfin, c'est quand même les Américains qui nous occupent aujourd'hui, c'est pas les Soviétiques.
Oui.
Bon, enfin, c'est mon opinion et je la partage.
Mon avis, je le partage. Dans un autre genre, vous pourrez lire dans le journal Télé 7 jours, hebdomadaire d'une haute portée culturelle, que Monsieur Bruno Mazur, présentateur au journal télévisé, avoue avoir désinformé, selon son expression, les téléspectateurs pendant 20 ans.
Ce sont
ses propres termes.
Ça, c'est la révélation du siècle.
Oui.
Hein, c'est étonnant, non?
Oui, il doit vouloir dire qu'il a lu des trucs avec lesquels il n'était pas d'accord. Parce que Bruno Mazur, il faut remettre les choses en place, c'est un lecteur de prompteur.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un texte qui défile, il a eu un comité de rédaction avant qui lui a dit « tu lis ça, Coco hein. ».
Oui,
alors, de temps en temps, il fait un petit truc
un petit
genre
«
Almanach Wehrmacht ». Et puis voilà.
vous assure que Jean Moulin n'était pas soviétique, mais socialiste.
Mais Jean Moulin était un agent soviétique, c'est abondamment prouvé.
Non, la personne a dû comprendre que tu avais dit qu'il était soviétique. Il n'était pas soviétique, il était socialiste.
Oui, c'est la même chose d'ailleurs.
Il était agent d'après les... C'était déjà l'Express qui avait publié le...
C'est Volton dans l'Express, il y a eu un livre, il y a un livre formidable... qu'il faut lire, qui s'appelle l'affaire Pâques, et dont le nom de l'auteur m'échappe pour l'instant, ça me revient pas.
Tu as 20 ans,
ça
déjà.
Oui, qui a quelques années, bon, qui est capital. Bon, et puis d'ailleurs, il y a le dossier Jean Moulin, qui est du même auteur, dont il faut absolument que je retrouve son nom, et bon, tout est dedans. Il n'y a pas de discussion possible sur la réalité de tout ça. Je crois que tu voulais nous parler de Toulon.
Oh, je voulais dire un petit mot de l'affaire Marécalter, parce que elle est en train d'enfler, elle ne fait que commencer. Le charmant Douce de Blasi va s'en emparer, bien sûr. Alors, que s'est-il passé? Il y a à Toulon une personne qui, de son propre chef, par provocation, a invité Marécalter en lui disant « Venez, cher Marek, et on va vous honorer à l'occasion de la fête du livre. » Ah, je viens, dit Marek, qui n'est pas là depuis très longtemps. Non, je viens. Bon, et entre-temps, le maire de Toulon, qui est Jean-Marie Le Chevalier, dit « Je ne trouve pas opportun que ce monsieur vienne, parce que moi j'ai une autre idée en tête, on va inaugurer ce jour-là la statue de Rému, on fait une grande fête du livre, je préfère que ce soit Brigitte Bardot qui vienne, parce que elle est du Var. Et puis, elle est plutôt plus mignonne que Marécalter, dit-il, il ne le dit pas comme ça, il dit « J'ai plutôt une préférence pour elle hein. ». C'était déjà l'histoire de Grêle, quand l'évêque, il avait repris un journal de l'évêque de Bruxelles, et il mettait des pépés en une, et l'évêque lui avait dit « Mais Léon, monseigneur, mais si je mets votre tête, j'en vends 10 000, si je mets... » Bon, c'est un petit peu la même chose, ça va pas plus loin, c'était pas méchant, et d'autant que le chevalier dit « il viendra avec les 120 auteurs qui vont venir signer, qu'ils viennent, mais je n'ai pas été élu sur une liste Front National pour faire venir un ennemi avéré, avoué, militant, haineux, mondialiste, qui a été un des fondateurs des SOS Racisme, ce qui semble tout à fait normal. On n'a jamais vu un maire communiste inviter un écrivain, je dis même pas, proche du Front National. Et on ne voit pas les gens du RPR dans leur mairie rendre hommage à un écrivain même modérément de droite, molle. Hein, ils ne sont jamais mis à l'honneur. Alors le chevalier lui a demandé de venir comme une personne normale, comme les autres, et l'affaire en est là. Mais bien sûr, immédiatement, ils sont montés au créneau.
C'est une personne normale, c'est un prix Nobel.
Nobel, il est. Je ne sais pas s'il est prix Nobel.
Oui, bah, s'il ne l'est pas, alors.
Il mériterait de l'être.
Faire un procès. Oui, au jury du prix Nobel. Là.
Voilà. Alors donc, il sera là en tant que Marécalter, et l'hommage à Rému sera rendu normalement, sans qu'on ait besoin forcément de Marécalter pour le faire.
Je rappelle quand même que les mêmes qui aujourd'hui s'indignent du fait qu'on n'ait pas désigné M. Marécalter comme invité principal, parce que c'est ça la vérité, il n'est pas l'invité d'honneur, il est un des invités de la fête.
Il y a 120.
Sont les mêmes qui, l'année dernière, ne se sont pas du tout formalisés quand il y a eu une tentative d'interdiction de la présence des auteurs nationalistes.
Il y a même une attaque physique.
Il faut dire quelque chose aussi, très simplement, c'est l'extraordinaire impudence de Marécalter, qui est un nul sur le plan intellectuel, qui n'est pas un bon écrivain, non, qui est tout simplement un réseau.
Illisible.
Et de Marécalter de dire, mais comment on ne m'offre pas un prix? Enfin, la moindre des choses, c'est que quand même on me donne un prix. Nous sommes d'un pays où il y avait quand même une tradition du savoir-vivre, une tradition de tout petit peu de politesse. Quand on arrive quelque part, on ne demande pas, bah oui, je suis quand même l'homme qui doit être honoré. Je pense que Marécalter, là, n'est pas tellement en conformité.
C'est un méchant homme, hein. C'est un méchant homme, Marécalter.
Oui, c'est un méchant homme.
Il faut le savoir.
Il est barbu, il a les cheveux longs. Il
peut
Alors, donc voilà, l'affaire est évidemment une provocation. On en voit un des effets immédiats, puisque, avec une célérité qui honore ses services de renseignement, le maire de la ville de... alors là, attendez, il faut que je prenne...
Merialia ou un nom comme ça, non, c'est ça, d'une ville d'Israël.
Israël.
Ah, pendant que tu cherches le nom, il faut dire que ce monsieur...
Merialia.
Voilà, explique très bien d'ailleurs à le chevalier qu'il avait résisté jusque-là à toutes les pressions, mais que puisqu'on interdit à Marek Alter de venir à Toulon,
voilà,
il casse le jumelage.
Après de longues et mûres réflexions, la direction de la ville de Herzliya, dont je suis le maire, a décidé d'annuler le jumelage entre Herzliya et la ville de Toulon. Depuis votre élection comme représentant du Front National, le parti de Jean-Marie Le Pen, j'ai été soumis à de fortes pressions de membres du gouvernement d'une part et de personnalités de la communauté de France. Et d'ailleurs, d'autre part, me pressant de rompre l'association entre... Et d'ailleurs, d'autre part, c'est tout à fait étonnant, ça. Je relis, hein. J'ai été soumis...
Relis lentement.
...à de fortes pressions de membres du gouvernement d'une part. De quel gouvernement est-ce? Est-ce qu'il ne dit pas? Est-ce que c'est le gouvernement israélien ou le gouvernement français? D'une part. Et de personnalités de la communauté juive de France.
Là, il n'y a pas de doute.
Et d'ailleurs...
D'autre
part. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'ailleurs? De quelle communauté peut être intéressé à ce que la ville d'Herzliya annule le jumelage avec Toulon. Ça, c'est très curieux. Me pressant de rompre l'association entre Herzliya et Toulon, j'ai refusé de le faire afin de ne pas porter atteinte aux relations entre nos communautés et avec les habitants de votre ville, juifs et non-juifs, qui ont contribué dans le passé à renforcer le lien historique de longue date entre les deux villes côtières de la Méditerranée. Bien que l'identité du Front National et les déclarations sans équivoque de son président, M. Jean-Marie Le Pen, n'ait laissé aucun doute quant au caractère raciste et antisémite du parti dont vous êtes membre.
Là, il dit pas plus que Juppé.
Non, c'est ce que dit Juppé. Il est bien obligé de croire ce que dit le Premier ministre. J'ai refusé de me soumettre aux pressions et j'ai fait opposition aux exigences de rupture du jumelage entre nos villes. Un argument supplémentaire qui m'avait poussé à ma décision est l'opinion qu'il ne faut jamais juger une personne que selon ses actes et sa conduite. C'est là l'examen de passage. Ouais. Si malgré votre appartenance au Front National, vous avez fait preuve d'une certaine justice dans votre attitude envers le peuple juif et aviez exprimé votre répugnance relative aux horreurs perpétrées également en France durant la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais incité pour maintenir l'association entre nos deux villes. Cet espoir. Donc là, il y a aussi une information qui est très importante, c'est que l'homme politique français, quel qu'il soit, il est obligé de faire ce qu'il fait.
Ça, c'en est une, Serge. Et l'autre, c'est qu'il y a eu une communauté en France, française, pour aller intervenir à l'étranger et demander à un maire à l'étranger de rompre jumelage avec une ville en France.
Intéressant aussi.
C'est aussi intéressant.
Alors, donc cet espoir a malheureusement été déçu. J'ai appris que vous aviez interdit aux organisateurs de la Foire du Livre de Toulon de faire une soirée en l'honneur de l'écrivain juif Marek Alter. Donc ça c'est faux, survivant de l'Holocauste. Et aviez cyniquement suggéré d'inviter à sa place Madame Brigitte Bardot. Pourquoi cyniquement? Enfin, ça, c'est son problème, c'est un problème de vocabulaire, que j'admire d'ailleurs beaucoup, pour qu'elle parle de ses mémoires. Cette décision malveillante a vidé de toute signification le maintien du jumelage entre nos villes. À mon grand regret, vos actions ont prouvé que ceux qui disaient que vous étiez fidèle à l'esprit de votre président, M. Jean-Marie Le Pen, avaient raison.
Bon, c'est
plutôt un bon point. La ville de Herzliya, ainsi nommée en souvenir de Benjamin Zev Herz, visionnaire de l'État d'Israël, Herzl, visionnaire de l'État d'Israël, ne peut en aucun cas être jumelé à une ville dont le maire manifeste une attitude d'aliénation et de mépris envers un auteur d'origine juive survivant de l'Holocauste. Les habitants et les membres du conseil municipal, la direction de la ville de Herzliya se joignent à moi dans l'espoir que dans un proche avenir, une personne digne d'être maire de Toulon nous permettra d'établir
des
réciprocités et de renouveler le jumelage.
Moi, je tiens à dire ici que les légendes qui tombent cela en France font pression sur un maire, tombent cela. Bon, sont d'une part des traîtres, mais je me permets de dire aussi que j'ai fait deux fois bloc avec Jacques Chirac. Je vais peut-être vous étonner, peut-être vous peiner, mais la première fois, c'était au Parlement européen, lorsque celui-ci était injurié par les écologistes et gauchistes de tout poil. Parce que j'ai déclaré à ce moment-là, ça n'est pas bien grave que l'on injurie la personne Jacques Chirac, mais en sa personne, on injurie l'État français. Or là, Jacques Chirac vient de subir en Israël donc une rébuffade, une injure extraordinaire de la part de la Gestapo israélienne, la police d'occupation israélienne à Jérusalem-Est. Et voilà donc le maire d'une ville israélienne, qui avait une impudence
total, avec un orgueil, une démesure. Enfin, avec ce que le général de Gaulle disait, hein, dont une sûreté, un orgueil, un mépris de domination, cela est parfaitement intolérable. Parfaitement intolérable, et je dis que si j'étais le maire de Toulon, j'aurais plaisir à inviter un écrivain palestinien, parce qu'on ne peut que comprendre l'exaspération de ce peuple. Je dois dire que j'ai été très content lorsque Jacques Chirac a prononcé une phrase qui tomberait sous le coup de la loi, selon Jacques Faisan, dans ses admirables dessins du Figaro, on me le pardonnera, mais ce que je découvre là, à ce moment-là, c'est l'intolérable dépassé. Eh bien, je suis content, finalement, qu'il n'y ait plus de lien entre Toulon et la ville dominatrice, raciste, orgueilleuse, impériale, impérialiste, pardon, de Herzliya. Et pour le maire d'Herzliya, je pourrais peut-être citer ici les déclarations du fondateur de l'État d'Israël, comme il dit, le présidentateur Herzl, qui était un raciste d'une manière absolument incroyable. Alors, c'est ici le militant antiraciste qui parle. Je suis heureux de la résistance de Toulon au racisme dominateur de certains.
Alors, un auditeur nous téléphone gentiment pour nous dire que l'auteur de l'affaire Georges Pacques et de l'affaire Jean Moulin à la contre-enquête, ce sont deux livres, cet auteur c'est M. Charles Benfredge, qui est un remarquable écrivain, qui a écrit également un roman tout à fait impressionnant, décidément je suis pas en forme ce soir, qui s'appelle le Méridien ou quelque chose comme ça, qui est un très très bon roman. Voilà. Alors maintenant, mon cher Bernard Anthony, la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir ce soir, c'est que tu as décidé de te mobiliser et de mobiliser autour de l'affaire
De l'Arc. Oui, dans le prochain numéro de Reconquête, au fond, les mécanismes de la non-résistance du peuple français et des peuples européens en général. Le mécanisme tient à la succession, ou plutôt dans le remplacement de l'idéologie de la lutte des classes par la dialectique du racisme et de l'antiracisme. Et je tiens pour le mal absolu l'idéologie appelée antiracisme. Cette idéologie appelée antiracisme, dont on martèle les tabous à longueur de journée, comme nous venons de le constater, cette idéologie dont vise imprégner dans le cerveau de nos contemporains l'idée qu'il n'y a plus qu'un péché. Il n'y a plus qu'un péché, c'est le racisme. Le racisme étant bien entendu défini comme il est dans le cadre de la loi tout bon, c'est-à-dire toute attitude de préférence. Préférer sa nation, c'est raciste. Préférer sa femme, on sait très bien que ça sera raciste un jour. Préférer ses enfants, c'est raciste. Donc, est raciste toute attitude de préférence naturelle pour les communautés dont nous sommes issus. Cela conduit à, évidemment, relativiser tout autre crime. Plus rien n'existe. Le racisme est le seul péché. Et il faut dire que, de ce côté-là, les plus grands responsables sont les évêques français. Ils sont collectivement coupables de cette abomination, de cette rupture métaphysique, je dirais, de cette rupture métaphysique avec la morale naturelle, avec même le bon sens élémentaire. Il y a donc un péché, c'est le racisme. Et pour cela, donc, avez-vous vu, par exemple, en Belgique, dans l'affaire même des crimes donc de pédophilie de Dutroux et de sa bande de monstres, donc on a pris soin de faire en sorte que tout de même, ça ne puisse pas être, exprimé comme le mal absolu. J'ai entendu à la commission juridique du Parlement européen, Antoinette Fouque, je dis bien Antoinette Fouque, lue sur la liste Tapie, demander, alors même que les révélations tombaient sur les abominations de Dutroux, demander l'élaboration d'un statut du pédophile. L'élaboration d'un statut du pédophile, j'ai répondu à Madame Dutroux, tant que vous y êtes, pourquoi pas des statuts ici à Bruxelles, ça serait peut-être le lieu. Donc, la pédophilie, quand même, il faut comprendre, quoi, le pédophilie, c'est la société qui est responsable.
Hein. Je publierai bientôt des textes que j'ai retrouvés Il y a quelques années, il y a eu une affaire comme ça, et dans Libération, une affaire de pédophilie, et dans Libération, et dans la presse, dans ce genre de presse, des textes de soutien aux pédophiles ont été publiés.
Mais oui,
et je les republierai prochainement.
Et dans Le Monde aussi.
C'est totalement ahurissant.
Et dans le journal Le Monde et les déclarations au Parlement européen de M. Cohn-Bendit et un certain nombre d'autres. Mais alors, je continue. Donc la pédophilie, ma foi, c'est quand même beaucoup moins grave que le racisme. Puisque le pédophile, lui, c'est pas de sa faute. C'est son instinct, puis c'est la société, comme d'habitude, qui l'a corrompu. J'observe au passage que ceux-là même, intellectuels de gauche, qui invoquent toujours la responsabilité de la société sur le criminel, pour excuser le criminel, ne trouvent aucune excuse au malheureux paumé de banlieue. Lui, le paumé de banlieue, raciste, s'il est raciste, eh bien le fait que peut-être il soit né de parents inconnus ou divorcés, qu'il n'ait pas eu d'éducation, qu'il n'ait pas de boulot, qu'il se soit laissé aller à l'alcoolisme, il n'a aucune excuse. Lui, c'est un être libre, admirablement libre. S'il est raciste, on ne peut rien lui concéder à lui, parce qu'enfin, sa responsabilité est entière. Vous voyez, enfin, le tour d'esprit de cela. Alors, il y a bien entendu la relativisation de la pédophilie par rapport, encore une fois, au crime absolu qu'est le racisme. Le mal absolu, c'est le racisme, au point que Satan, d'ailleurs, d'après mes informations, est jaloux. Aujourd'hui, Satan fait une crise de jalousie, parce que Le Pen étant Satan, il ne peut quand même plus supporter cela. D'habitude, le diable aime se cacher, mais enfin, il y a quand même des limites. On ne parle plus que de Le Pen, donc on ne parle plus de Satan, et là, ça va mal pour lui. Mais j'en viens, parce qu'il faut traiter légèrement ces choses, quelquefois, parce qu'elles sont atroces, mais j'en viens donc au second point qui aurait dû susciter non seulement la réflexion mais la révolte de nos contemporains. Et c'est la question de l'ARC. Alors j'en reviens à l'ARC, l'Association de recherche contre le cancer. Parce qu'on est en train de nous faire croire qu'un seul homme serait responsable, Monsieur Crosemary, enfin ou le susnommé Crosemary, je ne sais pas son nom exactement, donc, Monsieur Crosemary. Alors Monsieur Crosemary donc aurait détourné, a détourné, aujourd'hui cela est admis par la nouvelle direction de l'ARC, 100 milliards de centimes. Donc, disons bien 100 milliards de centimes. À qui veut-on faire croire, à qui peut-on faire croire qu'il les aurait détournés tout seul? Dans une association aussi, comment dirais-je, dans les associations que j'ai eu à présider, aussi pauvres, aussi, je ne vois pas comment, sans complicité, on pourrait détourner
même 100 francs.
50 francs ou 100 francs. Je donne le témoignage que si je voulais détourner 100 francs à la griffe, il faudrait qu'il y ait au moins la complicité,
au moins trois complices.
Il faudrait qu'il y ait au moins la complicité d'Hélène Sabatier et du trésorier Baïvé. Voilà. Ouais. Alors, donc, comment...
Tu n'es pas sorti de l'auberge.
Je ne suis pas sorti de l'auberge.
Non, tout le fait déjà très honnête.
Vous voyez, donc, ça me serait difficile de détourner 100 francs. Bon, techniquement. Alors, on me dira, Crosemary, il est plus fort que toi, je n'en doute pas. Je n'en doute pas.
D'abord, ils sont deux.
Mais, enfin, à qui fera-t-on croire qu'on peut détourner 100 milliards de centimes sans toute une chaîne de complicité? Cela est bien évident. Or, ils étaient, au conseil d'administration, 35. 35 au conseil d'administration qui ne sont pas tout à fait des débiles mentaux. Donc, j'accuse les 35 membres du conseil d'administration de la Griffe d'être la Griffe accuse en l'occurrence le conseil d'administration de l'ARC d'avoir donc détourné collectivement 5 milliards de centimes. Il n'y a pas que Crosemary. Alors on sait qu'il y a Caillavé, le frère de son papa, le grand maître du Grand Orient, il y en a un certain nombre d'autres. Mais je viens à une autre question. L'ARC était destiné à financer des programmes de recherche contre le cancer. Association de recherche contre le cancer. L'ARC fonctionnait partiellement aussi avec des fonds publics, en liaison naturellement avec le ministère de la Santé, qui est en liaison avec les grands laboratoires de recherche. Je peux témoigner pour que ce qui est dans le laboratoire que je connais et qui a mis sur le marché un des plus grands produits anticancéreux à ce jour, dont ce laboratoire n'a pas perçu un centime de l'ARC. Mais enfin, tout de même, il y a une coordination dont j'accuse les ministres de la Santé qui se sont succédés, hein, donc d'avoir été pour le moins aveugles
Et je demande, est-ce que monsieur Kouchner, ministre de la Santé, ancien ministre de la Santé, ne savait rien de l'ARC? Or, si mes informations sont exactes, monsieur Kouchner avait l'habitude de prendre quelques billets pour ses voyages financés par l'ARC. Est-ce que monsieur Douste-Blazy, le charmant ministre, est-ce que le charmant Douste-Blazy ne savait rien de l'ARC? De deux choses l'une, ou il n'en savait rien, il était donc un ministre léger, ou bien il en savait quelque chose. En tout cas, ce qui est inconvenant, ce qui est ahurissant, et je demande aux auditeurs de parler autour de cela, c'est que l'ARC continue, et continue à demander de l'argent. C'est stupéfiant, c'est stupéfiant. Bon, donc voilà une association, donc une personne morale, car il y a une continuité dans une association, une personne morale qui a détourné 100 milliards de centimes, et qui continue en disant, bon, ben, c'est les erreurs des prédécesseurs, mais surtout, continue à nous envoyer de l'argent. Bon, et il y a toujours des braves gogos, il y a toujours des gens qui n'y comprennent rien, des gens qui ne lisent pas, qui vont continuer à envoyer telle chèque. C'est une escroquerie poursuivie. Alors, première des choses, je demande à tous les auditeurs qui nous écoutent de se mobiliser pour exiger la dissolution de l'ARC. Et pour cela, alors exiger la dissolution de l'ARC, exiger que justice et vérité soient dites, que justice soit faite et que vérité soit dite. Alors, nous voulons la publication de tous les comptes de l'ARC, de tous les programmes de recherche. Je pense que les journaux qui se sont livrés à la remarquable enquête sur Charles Hernu doivent aller beaucoup plus loin. Il faut qu'ils aillent à l'ARC, il faut qu'ils demandent les comptes des 10 dernières années, il faut que l'on sache à quel programme de recherche, parce que le système de défense de Crosbury, c'est de dire, ben oui, il y avait quand même 30% qui étaient consacrés à la finalité de l'association. Voilà, on n'a jamais détourné que 70%.
Oui. D'abord, ils sont sympas, ils auraient pu tout prendre.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ça me rappelle,
vous avez bon cœur.
Ça me rappelle Mustapha Hasnada, le ministre du Bey de Tunisie, qui n'était pas d'origine arabe, d'origine musulmane, au début du siècle, avant la conquête de la Tunisie, qui disait « je ne prélevais que 80% du budget de la Tunisie ». Bon, donc là, c'est 70%, on a...
Donc, il y a un progrès, déjà.
Alors, on peut parler de ça légèrement, c'est vrai, mais il y a quelque chose d'ignoble. Parce qu'enfin, de même que les crimes de Dutroux sont véritablement des crimes contre l'humanité, parce qu'il n'est pas pire que de torturer, de faire mourir de faim, de soif, après toutes les sévices, toutes les tortures sexuelles et l'autre des petites filles, c'est un crime contre l'humanité, mais l'ARC, c'est un crime contre l'humanité, parce que c'est 100 milliards de centimes, et je le dis là gravement, puisque Serge, tu réchappes de cette terrible maladie, mais enfin, tout de même, 100 milliards de centimes qui devaient être versé, être utilisé au mieux pour atténuer la douleur et pour peut-être guérir un jour. Je crois que c'est pire que le sang contaminé. Parce qu'enfin, là, on peut dire que le sang contaminé, il y a eu d'abominables responsables aussi. Mais est-ce que, de loin, le Premier ministre, finalement, est-ce qu'il a été assez bien informé, etc. On peut toujours discuter. Là, c'est quelque chose de pire encore. Voilà des gens qui savent pertinemment qu'il n'y a pas l'ombre.
Ils prennent l'argent des malheureux.
On ne peut pas aller raconter qu'il n'y a pas eu information. On ne peut pas raconter qu'il n'y a pas eu information.
Il y a 15 ans, à peu près, François Robot, qui était l'ancien chef du service photo de Minute, et qui avait quitté Minute, s'était reconverti comme dans l'ARC. Il était allé proposer ses services à l'ARC, et travailler avec eux. Je crois qu'il a dû travailler 3 mois. Et au bout de 3 mois, il est venu me voir à Minute, et il m'a dit, mon vieux, il se passe des choses inimaginables dans cette boutique, ce sont des bandits, ce sont des voleurs, Crosbury est un gigantesque escroc, il paye littéralement les caisses de l'association, il faut faire quelque chose. Moi je t'apporte un dossier, ce que j'ai pu ramasser, mais je fous le camp parce que je ne veux pas rester un instant de plus avec des ordures pareilles. Et il a démissionné. Il m'a apporté un dossier sur lequel Ratier a enquêté. Et Ratier a publié des informations. Je dis il y a 15 ans, c'est peut-être il y a 10 ans. Je n'ai pas beaucoup la mémoire des dates. Mais donc, on a publié des choses. Je crois qu'on a eu un procès. Je pense qu'on a dû être condamné. Et en tout cas, personne n'a repris nos informations. personne n'a ouvert la moindre enquête sur les malversations de Crosemary et de son gang, ce qui veut dire que 10 ans avant, au moins 10 ans avant, on savait, on ne pouvait pas ignorer que M. Crosemary et son gang pillaient les caisses de l'ARC, de l'Association pour la Recherche sur le Cancer. Alors, j'ajoute à ça, pourquoi ça a été comme ça? Pour deux raisons. La première, c'est que M. Crosemary et son gang étaient tous francs-maçons et qu'ils ont bénéficié de toute la protection des loges, c'est-à-dire des pourris politiciens, des pourris journalistes et de toute cette mafia maçonnique qui a interdit qu'on parle de la chose et qui a interdit qu'on fasse une action en justice. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que M. Crosemary a graissé la patte de partis politiques. Il a filé du fric aux partis qui étaient au pouvoir à l'époque et il a acheté la complicité de ces partis politiques.
Ben, il n'est pas prêt d'être jugé, alors, non?
Ce qui fait que la plupart, naturellement, la plupart des magistrats qui auraient pu à intervenir ne sont pas intervenus, soit parce qu'ils étaient actionnés par la franc-maçonnerie,
soit parce qu'on leur demandait de s'écraser
par des politiciens, et généralement pour les deux raisons.
Alors, là, voilà. je parle pour, d'une certaine manière, peut-être, sauver la vie de Crosemary, qui nous est précieuse. Parce que, vous comprenez, tout vise à lui faire porter le chapeau. Alors, c'est une fripouille abominable. Mais comme tu le dis, tout ça se déroule sur l'entrelac vipérin, donc le vipérin du Grand Orient de France, d'autres loges. Donc, nous devons exiger la vérité sur cela. Vérité sur cela, mais il en est exactement comme de l'affaire Hernu. C'est-à-dire que là, certains ne veulent pas que ça sorte. Parce que si les Français apprenaient ce soir la liste réelle des complices du KGB. Bon, et je veux bien qu'on ajoute la CIA, mais en n'oubliant pas que les vices de la CIA, c'est d'être noyautées, manipulées elles-mêmes par le KGB, et d'abandonner comme ça...
Un petit correctif, si tu permets. J'ai jamais mis parallèle la CIA et le KGB. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire simplement que, en tant que Français, je voudrais qu'on me foute la paix.
Oui, oui, mais j'en profite un peu pour dire cela, parce que nous sommes livrés, donc absolument, domination comme ça, au fond de l'esprit mondialiste, donc idéologiquement, mais de ces abominations dans l'ordre des affaires. C'est toujours la ténébreuse alliance entre le socialisme apatride, entre le socialisme international et le capitalisme apatride. Alors, pour ce qui est de l'arc, premièrement, il ne faut pas lâcher le morceau. Et pour ne pas lâcher le morceau, je lance donc ce soir campagne sous la présidence de Serge de Bekech, campagne sous l'égide de Clovis, arc. Je m'explique. Le comité de Clovis n'a pas seulement pour vocation de commémorer donc un événement. Le comité de Clovis est une organisation de combat. C'est une organisation de combat et de fidélité à ce que nos rois de France et nos chefs de l'État les meilleurs ont eu comme finalité principale, c'est-à-dire la justice. Nous pensons à Saint-Louis et nous pensons donc à Philippe le Bel à quelque sorte. Il faut donc que notre comité de Clovis, en l'occurrence, se transforme en comité de liaison et d'organisation des victimes et des spoliés de l'arc. Car en ce moment même, je pense à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui ont des êtres chers qui souffrent ou qui souffrent eux-mêmes. Il faut donc que nous allions manifester. Manifester devant le ministère de la Santé. Car c'est ce ministère qui est responsable, certainement aussi le ministère de la Justice et le ministère des Finances. Mais j'accuse d'abord, pour le moins, de légèreté, si ce n'est de complicité, les principaux ministres de la Santé, le mondain Kouchner et le charmant Douste Blasi. Pour cela donc, préparons-nous, nous allons développer notre comité, Serge, car tu es naturellement celui qui doit prendre la tête, j'en serai l'animateur de cette mobilisation, nous pouvons compter d'ores et déjà, nous le savons sur le journal présent, bien entendu, qui est là avec Alain, mais il faut que tous les journaux, Rivarol, Monde et Vie, National Hebdo, se mobilisent, que toutes les associations, je lance un appel, nous donnent leur accord pour préparer la grande manifestation d'indignation nationale. Alors, une grande manifestation, ça se prépare, il faut de l'argent. Eh bien, je vais, pour une fois, ne pas demander d'argent. Clovis n'est pas riche, n'a pas encore fini de payer le film de Clovis juste à nous, la France. Nos associations ne sont rien, elles n'ont pas le millionième des fonds de l'Arc. Alors nous ne demandons, nous en avons décidé ainsi, avec Alain, avec Serge, aucun argent. Seulement, si les auditeurs le veulent bien, j'appelle les adhérents du comité de Clovis, de Chrétienté et Solidarité, à renouveler plutôt leurs adhésions. Ceux qui le veulent bien d'adhérer, nous avons besoin d'adhérents, car Clovis, Chrétienté et Solidarité vont donner un peu du faible argent que nous allons peut-être pouvoir récolter pour cette campagne. Quant aux autres, qui nous envoient simplement des timbres, je fais un simple appel, parce que nous ne voulons pas justement prélever pour cette campagne contre les voyous qui ont donc racketté d'une manière crapuleuse, parce que l'ARC, c'est l'association
des racketteurs crapuleux.
Nous ne voulons pas nous demander un seul centime pour cette cause-là. Alors je demande qu'on nous envoie des timbres pour nous aider justement à mobiliser, à alerter, que tous celles et tous ceux qui ce soir nous écoutent m'écrivent donc Clovis, 70 boulevard Saint-Germain, 75005. Nous allons ensuite nous réunir.
Paris,
et on tournait le téléphone, 40 51 74 07. Nous allons nous réunir, nous allons tendre la main à toutes celles et tous ceux à l'intérieur des différentes associations du mouvement national, mais aussi associations civiques, pour préparer cette grande manifestation d'indignation. Voilà donc ce que je voulais dire essentiellement ce soir, hein, parce que c'est 100 fois plus grave que l'affaire Stavisky. Alors comment, c'est dans l'ordre de l'immondice moral, ça ne souffre même pas de comparaison. Dans un cas, il s'agit de l'escroquerie classique, là il s'agit de bien pire. Donc Clovis se met en mouvement, centre de liaison d'organisation donc des victimes et des spoliés, pour exiger justice et vérité sur le détournement de l'ARC et surtout la dissolution de l'ARC. Hein, il faut que l'ARC soit immédiatement dissoute.
Le 7 novembre 1987, Radio Courtoisie diffusait sa première émission en direct. Depuis lors, chaque 7 novembre, nous fêtons ensemble la langue française. Jeudi 7 novembre, venez célébrer avec nous le 9e anniversaire de Radio Courtoisie. Venez participer à notre dîner au Palais de la Mutualité. Le prix du couvert est de 300 francs, 220 francs seulement pour les adhérents de notre association. Facilitez notre tâche en réservant dès maintenant. Veuillez envoyer un chèque correspondant au nombre de couverts réservés à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci de joindre aussi une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Notez, 300 francs par couvert et 220 francs seulement si vous êtes adhérent. À jeudi 7 novembre pour dîner ensemble.
Par un colore, con des armes wabete, par un colore, con des armes wabete, par un colore, con des armes wabete, par un colore, que me ma guerre, ma me spesso, la 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 Dimensen, get one of
quand il va la 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 la
Il s'appelle Tam Kreis, c'est le groupe Trian.
Très bon groupe.
C'est Romain.
Ah oui, c'est très beau.
Alors, c'est un disque Marzell Phonogramme. Mmh. C'est un disque compact, je crois que la référence est PG 899.
Voilà, est-ce que tu permets, puisqu'on est dans la langue bretonne, ça n'a rien à voir, mais je reçois un message de mon ami François Guillaume. Dans une langue que je suis à peu près le seul à pouvoir comprendre ici, je lui dirai simplement, et il comprendra, Zadom Spremni.
Bon, ben voilà. Voilà. Comme ça, merci d'être venu.
Serge, une dame très gentiment m'écrit ceci. La lettre de l'Arc, publiée en mai 95, est la liste d'environ 300 bénéficiaires de ces subventions. Elle tient cette liste à ma disposition. Oui, je la remercie. Je souhaiterais évidemment avoir cette liste. Pourquoi ? Parce que nous savons bien que c'était la libide de l'Arc. L'Arc répond, nous avons consacré 30% de notre budget. Bon, donc...
C'est ça, sûr qu'ils ont donné un peu d'argent.
Donc il fallait bien qu'ils donnent de l'argent. Mais toutes celles et tous ceux qui mettent tout ici, dont ils savent très bien que 300 bénéficiaires, justement, c'est la preuve même de ce que l'Arc ne faisait pas son travail. Parce qu'en fait, un programme de recherche... C'est un programme qui met en œuvre donc à la fois la continuité et des moyens. Et on ne disperse pas la recherche dans 300 directions différentes. Il allait de soi que si l'Arc avait voulu faire son travail, il fallait aider donc un certain nombre d'équipes de chercheurs, des grands laboratoires probablement, ou de la recherche scientifique, mais pas en tout cas 300 bénéficiaires. En tout cas, j'attends cette liste avec plaisir, et si cette dame peut me l'envoyer au 70 boulevard Saint-Germain, j'en serai très heureux, et je pourrai comme cela donc commenter le travail de l'Arc.
Voilà, je vais vous lire un texte quand même, parce que ça va être très bref, mais je voudrais quand même que vous compreniez bien que l'Europe, c'est pas la petite bière, ça sert à quelque chose.
Ah, c'est une grande chose, oui, oui.
Bernard Anthony m'a apporté, oui.
J'avais un message là qui était un peu pressé. Il y a plusieurs auditeurs qui demandent si Alain Sanders et Bernard Anthony seront chez la mère agitée ce soir et s'il y a bien un dîner.
Oui, il n'y aura que Bernard Anthony parce qu'Alain Sanders se lève très tôt.
Alain Sanders
sera présent demain matin. Voilà.
Le marchand de sable passe.
Je serai chez la mère agitée.
Alors, je vous rappelle que si
le
vous voulez.
Le numéro de téléphone.
Oui, si je le retrouve, parce que c'est toujours la même
chose. Mais une prochaine fois, si Serge me réinvite, j'y serai.
Je ne sais pas, on verra. Enfin, on va réfléchir,
à ça.
Donc, c'est 01 43 35 56 64. Ou comme on disait dans le temps. 43 35 56 64. Ou comme on disait dans le temps, ben non, comme on disait rien du tout dans le temps. 43.
35, 56, 64,
avec 0, 1, 2, 20.
À une condition, c'est de la mer agitée, mettre un tout petit peu de vin blanc au frais.
D'accord. On lui passe le message. Je vous signale d'ailleurs une chose amusante à propos du 0, 1, 43, 35, 56, 64. C'est que c'est bien ce numéro-là, et c'est pas celui qu'on a donné la dernière fois, qui a conduit un médecin à découvrir qu'il allait avoir la visite d'une vingtaine de personnes pour dîner. Il s'y attendait pas du tout, il était très ennuyé. Alors je signale, s'il est à l'écoute, parce qu'il a dit finalement, quand il a reçu le 20e coup de téléphone, il a dit, écoutez, ça a l'air sympathique, donnez-moi donc l'adresse de ce restaurant.
Il est bien, ce médecin.
Il est bien. Alors, si par hasard il nous écoute, ou si quelqu'un qu'il connaît nous écoute, je lui signale que la mère invitée l'invite, pour se faire pardonner de ce dérangement. Voilà. Je disais que j'allais vous lire un petit texte qui montre que quand même l'Europe c'est pas rien et que quand vous payez vos impôts pour l'Europe, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Bernard Anthony m'a apporté une revue, enfin
luxueuse.
Un morceau de revue très luxueuse,
comme celle de l'Europe d'ailleurs.
Des bons papiers, épais, la photo en couleur, etc., etc. Et alors il y a une photo de deux jeunes personnes africaines. Il faut faire très gaffe à ce qu'on dit maintenant, parce que si vous dites nègre, vous allez directement en prison, sans passer par la
Ils vont finir par mettre le président du Congo, qui d'ailleurs parle comme cela, dans une revue, vont finir par le mettre en prison pour racisme anti-noir.
Et puis Léopold Sédar Senghor, il va se retrouver en taule, le pauvre, à 90 ans, ça va lui faire drôle, mais enfin bon. Et donc, il y a deux personnes de sexe féminin et d'origine africaine.
Et de souche bantou, je peux te dire.
De souche bantou, voilà. C'est ça, lui. Ça n'existe pas, on te l'a dit, donc arrête. Et alors là, avec une vache, enfin, est-ce qu'on a le droit de dire une vache? On ne sait pas, parce qu'en tout cas, le texte de la légende,
on n'a pas encore les textes tout bons, on ne sait pas.
Si on ne sait pas si on a le droit de dire vache, parce que c'est aussi
du racisme. Pour l'instant, on peut encore.
Une vache, un cheval, c'est du racisme. Il faut dire un animal qui
justement, Serge, lis le texte, tu apprendras comment il faut écrire désormais.
Alors voilà maintenant. Donc il y a une photo de deux Africaines avec une vache.
Voilà.
Donc, et le texte, la légende, c'est suivant. Dans de nombreux pays ACP, les bovins font partie intégrante du cadre socio-économique à l'intérieur duquel opèrent les producteurs. Ce qui veut dire qu'en Afrique, il y a des vaches à la campagne. C'est ça que ça veut dire. Et ça se dit, les bovins font partie, dans de nombreux pays ACP, alors les pays ACP, je viens d'apprendre par
Bernard Anthony,
voilà, que c'est Afrique-Caraïbes-Pacifique. Alors, dans de nombreux pays Afrique-Caraïbes-Pacifique, les bovins font partie intégrante du cadre socio-économique à l'intérieur duquel opèrent les producteurs. C'est très important, ça. Ça veut dire, il y a des vaches à la campagne où il y a des paysans.
Fois, les dames les traient en question.
Oui.
Mais ça, ils le disent pas parce que c'est plus long.
Alors, si les journalistes de présent écrivaient comme ça, naturellement, le journal ferait 48 pages. Ça ferait quand même plus sérieux.
Ça ferait plus
sérieux. Et le livre journal, 210.
210 pages. Et alors, il y a une autre légende, il y a une photo où on voit des chèvres qui mangent des herbes, enfin des feuilles. Et la légende, c'est les petits éleveurs doivent être encouragés à utiliser les produits alimentaires locaux.
Ah,
oui. Mais oui, parce que vous feriez manger des glaces, je sais pas, du pôle Nord à des chèvres africaines, ça coûterait cher.
Des chèvres lapones.
Et la suite, c'est... Oui. Alors ici, on les nourrit avec quoi? Avec
alors là, il y a aussi encore, par exemple, alors en
feuille de bananier,
qui est un encouragement. Élever des petits ruminants est idéal pour les petits paysans. Et on pourrait même en conclure qu'élever de gros ruminants est idéal pour les,
pour
gros,
les
paysans.
Gros paysans. Alors, c'est-à-dire, Domingue, il pouvait élever des grosses vaches.
C'est ça.
Et tandis que le, c'est si, comment s'appelait-il, ce très beau jeune homme qui tournait dans, avec Jean Marais, dans L'Éternel Retour.
Alain Cuny?
Non,
le beau jeune homme. Ah,
Pierral
devrait élever les petits ruminants.
Pierral,
ce qui est tout de même important, c'est que quand on lit cette légende, il faut bien voir ce que cela signifie. Les bovins font partie intégrante du cadre socio-économique, c'est-à-dire les bovins ne sont pas des exclus. Il faudrait quand même en prendre de la graine. Vous comprenez? Parce que chez nous, on a tendance à exclure les bovins.
C'est vrai.
Tandis que là, ils font partie intégrante du cadre socio-économique. C'est une promotion du bovin.
À propos de bovins, je crois qu'on a quelque chose qui concerne Jean-Louis Debré, non?
Attendez, j'ai beaucoup de choses. Je peux commencer par... on revient un peu sur ce qui a été dit. Alors, bon, à propos de la relativité du crime... On peut dire également que la tolérance et la promotion de l'abominable crime de l'avortement rend ipso facto ipso facto tous les autres crimes intolérables.
Oui, mais c'était. Moi, je dis ça depuis des années. À partir du moment où on a le droit de tuer un enfant dans le ventre de sa mère, à quel moment on n'a plus le droit de le tuer ? Alors, ils nous disent 9 semaines. Oui, et à quelle heure ?
À propos des pédophiles, Guy Hockenheim chez. Je ne saurais jamais prononcer. Oui. Chez Albin c'est Michel, lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Signale page 132. Dans la page 132, il y a un passage qui concerne un ministre de la Culture célèbre et de ses relations avec des petits garçons. On parle de
C'est
l'affaire Chorale et tout ça.
C'est l'affaire du Chorale. Je suis extrêmement prudent parce qu'il se trouve que quand j'étais le directeur de l'hebdomadaire dont Alain disait le nom tout à l'heure, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet et c'est une affaire de cornflux. On nous avait apporté un dossier qui était un dossier entièrement fabriqué dans les officines de basse police qu'on a débusqué d'ailleurs sans difficulté. On a même retrouvé les auteurs de ce faux dossier et il s'agissait de faire publier par l'hebdomadaire en question le nom du ministre en question
et de l'assommer
et de le présenter comme un redoutable criminel. Moi, j'ai pas de preuve de ça et par conséquent,
Mais alors, il y a un jour ou deux à la télé, nous avons entendu Jacques Lang dire qu'il s'apprêtait à recevoir à Toulon Maître Marek Alter avec tous les honneurs dû à un grand écrivain.
Mais c'est très bien. Mais pourquoi il est maire de Toulon, Jacques Lang ?
Non, mais il va quand même aller à Toulon.
Je voudrais dire une chose quand même. Imaginez une seule seconde, parce que Lang, qu'est-ce que c'est ? C'est un politicien aujourd'hui, c'est un homme politique. Bon, imaginez que Jean-Marie Le Pen dise j'ai décidé d'aller à la fête du livre de Blois. Voilà, d'aller à la fête du livre de Blois et de recevoir Jean Madiran. Mais vous imaginez là les hurlements que pousserait toute la gauche et tout, dire mais de quel droit Blois, Le Pen va-t-il à Blois et tout. Alors Lang va à Toulon et apparemment l'effroyable fasciste qu'est Jean-Marie Le Chevalier ne s'en est pas ému. Il n'a pas interdit Toulon.
Tout cela, d'ailleurs, ne fait que renforcer Jean-Marie Le Chevalier, le Front National. Il faut bien voir qu'ils sont grotesques. Ils se votent dans le ridicule.
Toujours à Toulon, ce matin, Philippe Alexandre s'en est pris au préfet du Var, lui. Parce qu'il a abondé dans le sens du maire de Toulon.
Il n'y a pas exactement...
C'est-à-dire
qu'on lui a coupé son adjoint.
Et alors, à propos du Front National, cet après-midi à l'Assemblée nationale, il y a eu une attaque en règle contre la manifestation du Front, dont le service d'ordre aurait molesté les contre-manifestants. Alors, à ce propos-là, il y a un communiqué de Bruno Gollnisch qui
À l'Assemblée nationale, c'était bien ça. C'est pas l'affaire de Monceau les Mines.
Je ne sais pas. Ils ont parlé. C'était peut-être une autre affaire. Ça, j'ai pas de précision dans le message. Mais alors là, on nous donne... Monsieur Jean-Louis Debré vient de faire savoir qu'il a donné ordre au parquet, dont on croyait...
Il donne des ordres au parquet, Debré ? Le ministre de l'Intérieur donne des ordres au parquet.
Dont on croyait jusqu'à présent qu'il demandait M. Toubon de poursuivre Bruno Gollnisch, coupable d'avoir, avec des centaines d'anciens combattants, membres du Front National, déposé sans autorisation une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, lieu symbolique le 21 octobre.
Ah, les gens foutent.
Alors, c'est pas possible. Bruno Gollnisch pose quelques questions, en particulier les agressions contre les réunions du Front National n'ont, elles, rien de symbolique, comme ce samedi à Monceau-les-Mines, que fait le ministre de l'Intérieur ?
Où un militant du Front est resté dans le coma, il a failli mourir d'une balle, d'une pierre dans la tempe. Il est resté dans le coma plusieurs heures. Il a fallu l'intervention des CRS en dernière minute pour permettre aux pompiers de dégager ce malheureux.
Et c'est là que le commissaire de police a dit qu'il avait reçu l'ordre de ne pas protéger.
Le ministre de l'Intérieur a donné ordre à la police de laisser faire. Oui. Pourquoi demande M.
Bruno Gollnisch a eu au téléphone le commissaire de police qui lui a dit « Écoutez, je suis obligé de m'excuser, mais j'ai ordre de ne pas intervenir. » Texto. Vous avez le texte dans le présent de cet après-midi à Paris et demain matin dans les...
Je ne crois pas que M. Debré donne des ordres au parquet pour poursuivre les manifestants qui s'apprêtaient à lyncher le docteur Dor. Et d'ailleurs, votre serviteur, lors de la manifestation de prière organisée par SOS Tout Petit à Toulouse, où il y avait autour du docteur Dor, que j'ai rejoint, car c'était mon rôle d'élu local, quelques jeunes filles, quelques braves dames. Les gens qui croyaient pouvoir le rejoindre étaient bloqués par la foule, dont des manifestants. C'était un conglomérat de ligues communistes, de scalps, de satanistes, de radicaux, de francs-maçons, de MLF, enfin, selon le commissaire de police, d'ailleurs, de Toulouse, il y avait là à peu près 400 tueurs contre le docteur Dor, la quinzaine de vieilles dames et de jeunes filles qui étaient avec lui. Monsieur Debray semble être totalement indifférent entre ce genre d'appel au meurtre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Debray avait été sommé par deux syndicats de police de gauche,
oui,
de poursuivre des gens qui étaient venus honorer,
oui,
le soldat inconnu. Voilà.
Alors,
tout n'est pas bon dans la police, hein, Serge, c'est toi qui dis ça des fois.
Et une adhérente de Chrétienté Solidarité et de Radio Courtoisie demande, la loi Toubon permettrait-elle à la GRIF de gagner ses procès pour la défense des nationaux?
Oui, alors écoutez, il y a un temps pour tout. D'abord, faire échec à la loi Toubon, et le combat n'est pas terminé, loin de là, et nous pouvons faire échec à cette loi, mais il n'y a que, la menace du bâton qui peut faire reculer cette loi. Alors je rappelle ici que tous les députés de la majorité dont ils voteraient cette loi inique, cette loi scélérate, cette loi que condamne notamment l'Académie des sciences morales et politiques, tous les députés de la majorité seront battus, parce que nous préférons finalement des ennemis à des gens qui, dans le privé, nous disent souvent avoir nos idées et qui agissent donc comme des traîtres. Pour le reste, je suis très heureux, je fais le commentaire, que M. Lange se lance ainsi dans un sport qui est l'haltérophilie. Je suis très content de voir se former comme ça, ce club d'haltérophiles.
Voilà, nouveau club obligatoire.
La Marek haltérophilie. Voilà.
Il y a un auditeur qui n'est pas content du tout, il nous dit... Vous passez les disques du groupe Trianne. Trianne Annaoned signifie les trois gens de Nantes, que M. Sanders cite donc le nom en entier.
Hein, voilà, oui, mais moi je suis excité, oui, c'est vrai.
Mais on vient pas.
Parce que je les connais bien, je les appelle Trianne, moi aujourd'hui. Comment vas-tu, Trianne? Bon.
Alors, il nous reste deux minutes. Encore quelque chose, Victoria, non? Il nous reste, quatre minutes pour répondre à une question.
Oui. Et puis pour annoncer
par
quelque chose.
Oui, mais attends, on va faire les annonces. Qui est posé par un auditeur. Il s'adresse à Bernard Anthony. Il lui dit, je suis noir, originaire de la Guadeloupe.
Oui.
Me considérez-vous comme de bonne race française? Bonne question.
D'excellente race française.
Tout à fait. Eh bien, je réponds avec un grand plaisir, parce que cet auditeur, j'apprends à cet auditeur que j'ai même fondé, jadis, un club Alexandre Dumas. Parce que je tiens Alexandre Dumas comme un de nos plus grands écrivains. En tout cas, c'est celui que je chéris le plus. Hein, les Trois Mousquetaires, c'est le sommet de ma bibliothèque. Et je relis tous les 5 ans les Trois Mousquetaires, 20 ans après, le Vuitton de Bragelonne, etc. Et Alexandre Dumas n'a pas eu besoin de faire SOS Racisme. Il est un grand illustrateur de la race française. Et je dis à cet auditeur de la Guadeloupe que je suppose noir, comme mon ami Durbet, conseiller régional de PACA, qui est de même origine que lui et du plus beau noir, que je les tiens pour de race française. Car la race, ça n'est pas une couleur de peau. La race, c'est une attitude. C'est une attitude qu'a incarné admirablement Alexandre Dumas. Et donc, de même que les tirailleurs sénégalais admirables, dont j'ai rencontré les petits-enfants à Dakar, étaient de la pure race française pour moi. Parce qu'il s'agit bien de cela, la continuité, une culture, une civilisation, que sais-je. Eh bien, je dis à cet auditeur qu'il pourrait très bien faire, s'il le veut, partie de Chrétienté Solidarité, du Front National, et il pourrait d'ailleurs rencontrer José, qui d'une manière tutélaire, avec lequel vit Jean-Marie Le Pen depuis 20 ans, parce que là, il y a le fidèle couple d'amis qui vivent dans la même maison que Jean-Marie. Alors, pour les imbéciles qui croiraient que notre défense de la race est une défense raciste de je ne sais trop quel racisme biologique, eh bien, nous disons, notre maître, en l'occurrence, c'est Alexandre Dumas.
Et moi, je rappellerai ma devise, qui est un drapeau, trois couleurs, et je m'y tiens.
Voilà.
Cette question a été posée, comme notre auditeur le désirait, et elle a reçu une réponse. Un auditeur nous informe que l'ARC subventionnait les travaux du professeur Beaulieu, qui est l'inventeur de la pilule abortive.
Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je souhaite vraiment qu'on me donne cette liste de travaux et nous commenterons.
Quoi d'autre, Victoria ?
On nous demande aussi de parler de la manifestation des retraités du front qui ont été matraqués.
Alors, ils ont été attaqués par de grands jeunes gens sanguins, qui sont des nervis du service d'ordre habituel de la CGT, qui se sont jetés sur des personnes âgées, qui les ont tabassés, là encore sous les yeux d'une police étonnamment discrète. Et plusieurs d'entre eux ont été hospitalisés, et je crois que tous ne sont pas encore sortis de l'hôpital. Voilà. C'est comme ça, dans cette belle France.
Et puis, une réponse à la question que je posais tout à l'heure. Le nom de l'auteur, enfin, le titre du livre de Thierry Volton, dans lequel sont révélées les méthodes du KGB pour recruter, c'est le mot, des agents, c'est ben, ce titre, c'est Le Grand Recrutement de Thierry Volton, publié chez Grasset en 1993. Ouais. C'est notre ami Marc Vidal de la librairie des Oies Sauvages qui nous apporte cette information. Je tiens, j'en profite pour dire que la librairie des Oies Sauvages, vous pouvez obtenir leur catalogue en écrivant à la boîte postale 16 77343 Ponto Combo Cedex.
Et puis un auditeur nous signale que on a déconseillé à M. Chirac de rencontrer le Dalai Lama. Il y a eu des
On ne lui a pas déconseillé.
On lui a interdit.
Les Chinois
lui ont dit, si vous le recevez, voilà. Les contrats, notamment
Allez,
Airbus.
Terminé.
Maintenant, on va voir. On va voir ce qu'il va
le. Et je renvoie encore les lecteurs, pardon de le faire, à un article présent cet après-midi sur le sujet.
Voilà, notre heure et demie est terminée. Mais dans deux minutes, nous reprenons la parole pour respecter la tradition d'Anschluss sur la moitié d'émission de Daniel Amiche. Et nous ferons simplement les annonces. À tout de suite.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 30 octobre 1996, diffusé dimanche 27 décembre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Je voudrais donner la parole à Victoria et à Alain qui ont des annonces à faire. Pour ma part, j'ai une annonce à vous faire, c'est que si vous aviez par bonheur l'intention de vous abonner au Libre Journal de la France Courtoise, le prix de l'abonnement est de 600 francs, je vous informe que grâce à la générosité amicale de Maurice Molina, qui est le propriétaire du théâtre de l'Eldorado, chaque abonnement se verra en quelque sorte nouvel abonné pas par un téléviseur mais par une invitation au théâtre de l'Eldorado pour voir Le Faiseur de Balzac avec Jean-François Bellemare qui paraît-il est une merveille. Donc si vous vous abonnez, vous recevrez deux billets pour aller au théâtre. Ce qui, étant donné le prix des places de théâtre, représente à peu près plus de la moitié de l'abonnement.
Ah, oui.
Mais ça, c'est
250
francs. C'est Maurice Molina qui nous a déjà offert des places la semaine dernière pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qui m'en a réoffert cette semaine pour les abonnés du Libre Journal. Alors, je précise que si vous n'avez pas les moyens de vous abonner et que vous voulez quand même aller au théâtre, vous avez quand même la possibilité de m'écrire. Et normalement, étant donné le nombre de places que Maurice Molina nous a donné, on devrait pouvoir satisfaire tout le monde, sauf alors si une marée d'abonnements venait brutalement enrichir le Libre Journal qui en a bien besoin. Je vous rappelle l'adresse, 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris.
Ça n'a pas déménagé, j'avais lu.
On va déménager, on est en train de déménager. Si la souscription déménagement nous permet d'affronter cette épreuve très très lourde financièrement.
Alors, une toute petite chose, moi, Victoria, si vous permettez, c'est que les lundis de reconquête reprennent. Vous savez que les lundis de reconquête, c'est une fois par mois au 70 boulevard Saint-Germain, au centre Charlier, la Chrétienté Solidarité. Et nous aurons le 4 novembre, ce lundi, quelqu'un qui mérite le déplacement et le détour, c'est Maître Trémolet de Villers, qui parlera de son dernier livre qui s'appelle « Les fleurs du lys », un très très beau livre, et qui en parlera et qui le signera. Alors c'est une rentrée en fanfare, vous aurez d'autres surprises dans l'année avec ces lundis de reconquête, ça n'est qu'un début, continuons le combat.
On rectifie une...
C'est à 19h, très précise, je le dis, 4 novembre, 19h très précise, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, pas loin de Cluny.
Et alors, on rectifie une erreur de la semaine dernière, on avait parlé pour le magazine Breton d'ailleurs. On avait dit qu'il était en vente à la gare Saint-Lazare, il était en vente à la gare Montparnasse.
Bah, les Bretons, c'est Montparnasse.
C'est Jérôme Pinel qui nous le signale. Et puis alors, pour le 8e anniversaire de la mort de Jean-Pierre Stirbois, ancien secrétaire général du Front National, un dépôt de gerbes aura lieu le mercredi 6 novembre à 12h30 précise. Rendez-vous à partir de 12h devant l'entrée principale du cimetière Montparnasse, boulevard Edgar Quinet, dans le 14e métro Edgar Quinet. Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse aussi de la librairie des oies sauvages?
C'est à Pontecombo, boîte postale 16, Pontecombo.
Et puis, il y a qu'à mettre le truc devant,
le numéro,
le code postal.
Le code postal, ouais. Je crois, 77, à Pontecombo, boîte postale 16, librairie Les Oies Sauvages. Demandez-leur le catalogue. En général, il est très très bien fait. Merci Daniel, cette fois-ci on a été très correct.
Admirable ce soir.
À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous rejoignent pour cette seconde partie du Libre Journal de Serge Beckett que vous avez entendu pendant 1h30 et nous, vous allez nous entendre pendant 1h20. Alors ce soir, nous avons deux sujets, puisque maintenant j'ai décidé de ne plus en traiter que deux, parce que si j'en traite trois, on n'a pas assez de temps pour le dernier sujet, ce qui fait que nous avons ensuite des invités frustrés. Donc je préfère ne pas frustrer mes invités et ne prendre désormais que deux sujets que nous allons donc traiter avec un peu plus d'ampleur. Alors nous avons un sujet, en fait on va parler des Bourbons ce soir, je ne sais pas pourquoi, c'est une chose tout à fait nouvelle dans cette émission, mais pour deux raisons différentes. La première c'est que nous recevons toujours avec autant de plaisir Jean-Baptiste Brosse, qui est le directeur du concerto Rococo, qui est aussi le directeur artistique du festival du Comminges, qui vient nous présenter un disque qui est juste sorti des presses, on peut parler de presse puisque les disques sont pressés aujourd'hui comme les livres.
Il est tout frais.
Il vient de paraître chez Pierre Ferrani, qui est un éditeur tout à de musicaux, comment on appelle ça, un éditeur de disques, un éditeur de musique,
non, phonographique.
Éditeur phonographique, je ne connais pas le code APE, mais c'est un éditeur phonographique. parce que vient de sortir un livre, enfin un disque tout à fait superbe dont Jean-Patrice Boss était déjà venu nous entretenir. On avait déjà même d'ailleurs eu la primeur de quelques extraits bande magnétique
avant montage. Oui.
Avant montage, et c'était absolument superbe, et c'est encore plus beau maintenant que c'est un disque de qualité laser superbe. Alors ce disque, ce sont les Vêpres de l'Assomption, une reconstitution des Vêpres de l'Assomption de la période 17e, début 18e siècle.
18e siècle, 1740,
c'est,
oui.
C'est placé sous le vocable de Jean-François d'Andrieux.
C'est-à-dire que les pièces instrumentales sont de Jean-François d'Andrieux, exactement de 1738.
Alors donc, fort intéressant, mais bien sûr, vous me direz, oh, bah, des messes de l'Assomption, tout ça, il y en a beaucoup. Oui, mais alors, celles-ci sont très particulières, puisqu'il y a également, dans ce disque, inclus l'ensemble de la musique qui accompagnait la procession du vœu de Louis XIII. Alors ça, c'est superbe, on va en parler davantage tout à l'heure, mais vraiment, c'est absolument remarquable, et j'espère que nous allons pouvoir en passer quelques extraits ce soir. C'est un disque que je vous recommande. Donc nous allons parler de ce beau disque et de musique. Et puis, en deuxième partie, c'est un seul sujet, mais traité par deux auteurs, qui ont travaillé en parfaite symbiose. On les appelle un peu les Boileau et Narcejac de la Restauration, qui ont travaillé en parfaite. C'est vrai, c'est très compliqué de savoir ce qu'elle l'un fait et l'autre pas. On reçoit Emmanuel de Varesquel, qui est un historien, qui est co-rédacteur en chef de la revue de la Société d'Histoire de la Restauration. Je me trompe pas, n'est-ce pas?
De fait.
Exactement. Et nous recevons Benoît Hiver, qui lui est le fondateur et toujours secrétaire général de la Société d'Histoire de la Restauration et de la monarchie constitutionnelle. Faut bien préciser tout ça, n'est-ce pas?
Absolument, oui, oui.
Voilà. Alors, ils viennent nous présenter un livre de vraiment de grand intérêt qui fait le point, si on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi, de façon aussi journalistique, sur la Restauration, c'est-à-dire ce moment de l'histoire de France qui se situe entre 1815 et 1830, 15 années, ce qui est très court à vue humaine, mais très dense par rapport à tout ce qui s'est fait au cours de cette restauration. Et le livre est très intéressant, très documenté, et ouvre, comme on dit, un large débat, puisque c'est d'ailleurs le sous-titre de l'ouvrage, un petit peu la naissance de la France moderne, ou contemporaine, plus exactement. Alors ce livre est publié chez Perrin. C'est un beau gros bouquin de pas loin de 500 pages.
Voilà, 500
pages. Mais je dis aussi, ça se lit de façon très, très agréable. Enfin, c'est plus facile à dire que l'indicateur chèque des chemins de fer. Enfin,
j'espère.
Non, ça, vous en êtes certain. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors avant, bien sûr, de commencer à nous entretenir avec nos invités, j'ai bien sûr quelques annonces à faire, puisqu'on m'a envoyé beaucoup de petites choses à annoncer, ce que je vais faire avec beaucoup de plaisir. Alors je voulais préciser, nous avions reçu il y a déjà quelques mois Serge Dalins, qui était venu nous parler d'une pièce de théâtre qui représentait dramatiquement sur les planches le prince Éric, célèbre héros de ses romans scouts. Et il y a eu une représentation exceptionnelle le 11 octobre dernier à Versailles, grâce au Théâtre Montansier, et ça a été absolument comble. Ce qui fait que devant le succès rencontré par cette réédition de cette pièce, une autre représentation va avoir lieu le mardi 19 novembre prochain à 21h. Alors le Théâtre Montansier se trouve 13 rue des Réservoirs, et si vous souhaitez réserver un billet ou vous renseigner pratiquement, le mieux peut-être serait que nos auditeurs aient la bonté d'appeler le numéro suivant. Alors maintenant c'est très pratique parce que c'est 10 chiffres, et alors nos auditeurs de province comme nos auditeurs de Paris, c'est terminé, on fait plus 16, on fait plus, c'est génial. Bon. C'est donc le 01 30 62 73 59. 01 30 62 73 59. Alors, j'avais pas eu le temps d'annoncer la semaine dernière les fameuses conférences de notre ami Paul Bilaire, et je voulais annoncer au moins celle du 2 novembre, mais je crois que j'annoncerai également celle du 9, puisque comme je ne serai pas l'émission mercredi prochain, que c'est le professeur Lugan qui fera les 3 heures, je pourrais manquer à l'engagement que j'ai pris. Donc, le samedi 2 novembre, dans le cadre des rencontres culturelles de Paul Bilaire, on visitera la Sainte-Chapelle, qui est une création de Saint-Louis IX. On y découvrira son histoire, on essaiera de comprendre le message de ses vitraux. Le rendez-vous est fixé à 14h30, c'est à l'entrée de la Sainte-Chapelle, c'est la cour intérieure du Palais de Justice, boulevard du Palais, et le métro le plus proche, c'est Cité. C'est un métro qui est très pratique, puisqu'il y a des ascenseurs qui vous hissent jusqu'à la surface de l'île. Et également le samedi 9 novembre, c'est Saint-Nicolas-des-Champs, l'église aux 100 colonnes, son histoire, ses nombreuses œuvres d'art, l'ancienne abbaye Saint-Martin-des-Champs, très importante Saint-Martin-des-Champs cette année du 15e centenaire du baptême de Clovis. Le rendez-vous est fixé à 14h45 cette fois-ci, à l'entrée de l'église qui se trouve au 254-256 rue Saint-Martin. Les deux métros pratiques, c'est Réaumur-Sébastopol ou Arts et Métiers. Également, un dîner-débat de grand intérêt que organise l'association Henri V Comte de Chambord. C'est d'ailleurs son 12e dîner-débat. Cela se passera le mardi 19 novembre à 19h30 dans ce restaurant très sympathique qui s'appelle l'Alsacienne et qui est au 48 de l'avenue du Général Leclerc dans le 14e arrondissement de Paris. L'invité, donc c'est un dîner-débat, il y a donc un orateur. On ne se contente pas de manger, mais on écoute aussi l'orateur, ou même on peut faire semblant de l'écouter, mais c'est agréable de dîner et puis ensuite de pouvoir écouter une conversation intéressante. L'orateur sera Yves-Marie Adeline, que nos auditeurs connaissent puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises dans mes émissions en tous les cas, qui va entretenir les participants à ce dîner-débat du thème « La droite piégée ou le leurre république ». Alors je précise d'ailleurs à nos auditeurs que un nouveau livre d'Yves-Marie Adeline paraîtra le mois prochain qui a pour titre précisément « La droite piégée ». Alors je vous donne l'adresse de l'association Henri V Comte de Chambord, là il faut la noter puisque c'est encore une boîte postale, c'est d'un compliqué, et il n'y a pas de téléphone. Donc si vous souhaitez participer ou assister à ce dîner de l'association Henri V Comte de Chambord, il vous suffit d'écrire à cette association à la boîte postale 255-16, et le code postal c'est encore plus compliqué, 75-766 Paris CEDEX 16. Également, une autre information, nous avions reçu avec beaucoup de plaisir dans cette émission Denis Sureau, qui avait fait un très beau livre chez Dominique Martin-Morin, c'était paru l'année dernière, qui s'appelait « Retour à la politique ». Et Denis Sureau vient de lancer une lettre d'information qui s'appelle « Chrétien dans la cité ». Je l'ai parcouru, parce que je l'ai reçu qu'hier, mais je l'ai parcouru. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Je pense que le mieux serait que nos auditeurs intéressés par ce thème des chrétiens dans la cité, c'est-à-dire du rôle que les chrétiens peuvent jouer dans la cité aujourd'hui, sollicitent un spécimen auprès de Denis Sureau, c'est-à-dire de l'éditeur. Donc, chrétiens dans la cité, on peut leur téléphoner au 06 09 04 80 65 06 09 04 80 65. Nous recevrons, je l'espère, prochainement Denis Sureau pour nous parler de cette belle initiative de presse qui me fait en tous les cas bien plaisir. Également, je me dois de citer, ce serait quand même malheureux, une édition spéciale du journal du 15e centenaire, qui est un journal qui a été lancé en septembre 1995 pour préparer la commémoration du 15e centenaire. La commémoration n'est pas terminée, puisqu'il y a encore beaucoup de manifestations qui se tiennent ou qui vont se tenir. Là, c'est un numéro spécial qui fait un petit peu le bilan de la visite, bien sûr, du pape Jean-Paul II, et également qui donne la parole à différentes personnalités que nous avons reçu ici, d'ailleurs sur Radio Courtoisie, Michel Le Pen-Fentenio, Philippe de Saint-Germain, enfin toute personne éminemment fréquentable. Le journal, donc, c'est un numéro spécial 23-24. Vous pouvez en solliciter un exemplaire également en téléphonant au 01 45 41 29 29 01 45 41 29 29. Alors on me redemande de dire le jour, évidemment, et l'heure de la visite de la Sainte-Chapelle. Donc je rappelle que c'est le samedi 2 novembre à 14h30. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à annoncer? Ah oui, c'est très important, c'est la grande vente dédicace des écrivains catholiques. Ça se passera le mercredi 20 novembre 1996 de 14h à 20h à la mairie du 6e arrondissement. Donc le mercredi 20 novembre de 14h à 20h dans la mairie du 6e arrondissement. Il y a beaucoup d'écrivains catholiques qui seront présents, dont la plupart sont très connus de nos amis auditeurs. Violette d'André, Jean Pourdarias, Jeanne Bourrin, Marcel Clément, Yvan Gobry, Noël Destremont, enfin, on pourrait les citer tous, il y en a une cinquantaine, dont la plupart, Brigitte Level, tout seigneur, tout honneur, beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont souvent sur Radio Courtoisie ou qui sont même d'ailleurs des animateurs de journaux de Radio Courtoisie. Donc, écrivain catholique, c'est le salon dédicace le mercredi 20 novembre de 14 à 20h. Et puis, je rappelle à nos auditeurs, précisément dans le cadre du 15e centenaire du baptême de Clovis, une manifestation intéressante, ce sont les rencontres la rencontre européenne de chants grégoriens qui se tiendra à Reims le 10 et le 11 novembre prochain. Nous avons reçu ici Yves Gire pour en parler, et si vous souhaitez en savoir davantage, il vous supplie d'appeler à Paris le téléphone de l'association Una Voce qui organise cette rencontre européenne de chants grégoriens. C'est le 01 42 93 40 18 01 42 93 40 18. Je crois que j'ai à peu près fait tous les messages que je m'étais promis de faire. Nous allons, si la technique le veut bien, écouter, pour nous mettre un petit peu en ambiance, un extrait de votre disque, Jean-Patrice Brosse. Alors bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement que de commencer par la fin. C'est une façon comme une autre d'écouter un disque. Et on va bien sûr écouter le Domine Salvum Fac Regem de cette procession du vœu de Louis XIII.
Oh.
Voilà, j'espère que vous avez été charmés comme nous tous dans le studio par cet extrait du disque des Vêpres de l'Assomption et du vœu de Louis XIII, enfin, musique de la procession du vœu de Louis XIII. Et ce Domine Salvum Facre Gem, si tu entends en parler avec Jean-Baptiste Brost, nous le trouvions plus priant, enfin, que triomphant. On est toujours un petit peu, on est dans l'attente des dominum, des Domine Salvum Facre Gem, des choses un peu, tatata. Et là, c'est vraiment d'une douceur, c'est très approprié, en fin de compte, au caractère exceptionnel que représente le vœu de Louis XIII. Alors, Jean-Patrice Brosse, donc, je vous représente à nos auditeurs, encore vous êtes quasiment un pilier de cette émission, on vous y voit souvent, pas assez à mon goût d'ailleurs, mais bon, il faut aussi que, entre deux productions de disques, il faut aussi que vous vous reposiez, peut-être pas le goût de vos auditeurs,
vous savez, ils en ont peut-être assez de m'entendre.
J'en suis pas sûr, en tout cas, nous n'avons pas eu de message dans ce sens, et s'il y en avait, de toute façon, je les cacherais. Alors, vous étiez venu nous parler de cette production, c'était avant le Festival du Comminges, que vous animez comme directeur artistique tous les ans. C'était il y a 5-6 mois, on avait passé donc un petit extrait, un petit bobino, comme on dit techniquement. Et là, nous avons la chance d'avoir donc le disque, cette fois-ci, tout gravé, tout beau, tout magnifique, avec un livret extraordinaire qui montre que non seulement vous êtes un bon musicien, mais vous êtes un musicologue averti, parce que, enfin, quand même, tout de même, c'est écrit en petit caractère, mais enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pages, quand même, beaucoup de travail.
J'ai état de mes recherches, mais j'ai pas de prétention dans le domaine de la musicologie, vraiment. Je travaille sur certains sujets et je les approfondis autant que possible.
L'humilité est une vertu, pas la modestie. Non, je trouve que c'est tout à fait remarquable. Alors, comment vous êtes venu, d'abord, l'idée de vous intéresser à ce thème particulier des Vêpres de l'Assomption?
Bon, ça fait partie de tout un ensemble de liturgies sur lesquelles nous travaillons, donc avec le chœur grégorien Antiphona et son chef Rolandas Moulekal, qui est installé à Toulouse. Et reconstitution de liturgie du XVIIIe siècle pour la plupart, que nous faisons un petit peu en collaboration avec le festival dont je suis directeur artistique, dont Saint-Bertrand de Comminges, la plupart du temps enregistré là-bas. Et en fait, il y aurait au bout du compte une vingtaine de liturgies à reconstituer de cette manière-là, c'est-à-dire une grande partie des grandes fêtes de l'année, que ce soit messe, que ce soit vêpre, que ce soit complie, que ce soit un sujet particulier. Donc on pourrait arriver à un grand nombre de reconstitutions, et celle-là arrive en troisième position après la reconstitution d'une messe de Pâques, de vêpres de Pâques, et puis d'une messe de l'Assomption également. Donc maintenant, on va se diriger sans doute vers le dimanche des Rameaux, qui est un dimanche tout à fait passionnant, et puis également vers la série de liturgie du temps de Noël et du temps de la nativité, de l'épiphanie. Donc, il était assez logique que nous intéressions à ce sujet du 15 août, qui est un sujet particulièrement intéressant, d'autant plus que la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, où nous avons enregistré ça, est dédiée à la Vierge Marie. Donc, le 15 août était une fête que nous devions célébrer en priorité.
D'aucuns prétendent que c'est la vraie fête nationale.
C'est la fête
Je
nationale.
Partage un peu cette opinion.
C'est la fête nationale jusqu'à relativement tard, je crois, au 19e siècle. Je ne connais pas la date exacte. Je suis certain que d'ici quelques secondes, un des auditeurs va téléphoner pour donner la date exacte
du changement de fête nationale.
Fête nationale au 14 juillet, mais le 15 août, en tout cas au 18e siècle, était la fête nationale.
Alors, ce qui singularise, à part la beauté, donc c'est très beau parce qu'il y a à la fois, bien sûr, des passages grégoriens, donc de la monophonie,
oui, monodie,
monodie grégorienne, qui sont très belles, puisque vous êtes accompagné, vous avez donc le concerto rococo que vous dirigez, et il y a le chœur grégorien Antiphona dont vous venez de parler, puis également la maîtrise du conservatoire de Toulouse.
Voilà, les enfants.
Des voix tout à fait magnifiques.
C'est très beau.
Vraiment, chose très très émouvante. Oui. Et il y a donc à la fois des pièces grégoriennes et bien sûr des pièces de polyphonie. Soit des pièces polyphonies au niveau des voix, soit des pièces musicales.
C'est là où est la complexité de la reconstitution, parce qu'on n'a pas énormément de documents finalement. On a les antiphonaires, on a les graduels pour les messes, on a des cérémoniales, on a des processionnales, des eucologes, mais on n'a pas très précisément en quoi consistait la partie musicale de ces cérémonies. Alors on est obligé de reconstituer à partir de pas mal d'éléments un petit peu disparate, c'est-à-dire qu'il faut d'un côté qu'on ait le plein chant, ça on le trouve très facilement. Le vœu de Louis XIII était très difficile à trouver parce qu'il y a extrêmement peu de cérémoniales qui en font état, qui donnent le détail de ça. Il a fallu que je superpose un certain nombre de sources pour arriver à reconstituer à peu près le vœu de Louis XIII. En réalité, c'est à Paris que j'ai retrouvé, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, que j'ai retrouvé un maximum de renseignements. Et puis, il y a toute l'alternance. Alors là, l'alternance reste quand même très mystérieuse, parce qu'on a très peu de documents pour savoir à quel moment exactement les musiciens intervenaient. Alors, il faut essayer de s'imaginer un peu géographiquement et dans le temps comment pouvait se passer la cérémonie. Et puis, je dirais pas de l'invention, mais disons, il faut un petit peu d'intuition pour essayer de trouver, parce qu'on a quasiment pas de renseignements, tous les renseignements qu'on a sur les sacres des rois. J'ai travaillé sur le sacre d'Henri IV, on n'a aucun renseignement sur la musique qui avait été jouée au sacre d'Henri IV. On n'a rigoureusement rien trouvé. Je sais qu'on a aussi des renseignements sur le sacre de Louis XVI et Louis XV. Mais on ne sait pas très bien ce qui était joué. Alors c'est là qu'intervient le rôle du musicien, c'est-à-dire celui qui joue la musique.
Et évidemment, obligatoirement, vous comprenez, intuitivement, vous comprenez.
Il le faut parce que sur ce plan-là, nous sommes un petit peu dans le vague quand même. Donc il y a beaucoup de sources, énormément de sources quand on fait une reconstitution de ce genre.
Alors donc l'intérêt second de ce livre, j'avais commencé par les Vêpres de l'Assomption proprement dites, qui sont fort belles, c'est donc d'avoir aussi tenté la reconstitution donc de la partie liturgique du vœu de Louis XIII. Parce que bon, le vœu de Louis XIII est encore connu de beaucoup de nos auditeurs et de un certain nombre de nos contemporains, puisque c'est un texte qui se lit généralement dans un certain nombre d'églises au jour de la fête de l'Assomption, puisque c'est le vœu de Louis XIII qui a institué donc Notre-Dame reine principale. Protectrice principale de la France, au titre de son Assomption, précisément. Donc, on connaît le texte. Il y a eu un très beau livre de l'abbé Laurentin, paru chez François-Xavier Guibert, je crois, sur le vœu de Louis XIII, me semble-t-il, qui décortique toute l'histoire du vœu. On voit très bien que toute la partie que le roi y a pris, la partie que Richelieu y a prise aussi, bon, c'est absolument, et c'est époustouflant d'érudition. Mais c'est la première fois qu'il m'était donné d'entendre les pièces liturgiques qui accompagnaient quand on ne sait pas trop, mais enfin qui accompagnaient cette procession, célébration du vœu.
Voilà, à la fin des vêpres, une fois les vêpres terminées, il y a cette longue procession qui peut être considérable, qui peut durer extrêmement longtemps. Alors, on n'a pas tous les éléments constitutifs de cette procession. J'en ai rassemblé quelques-uns, les plus habituels, je dirais, en superposant les sources, comme je vous disais tout à l'heure. Et on a effectivement des choses tout à fait bouleversantes, comme les litanies, par exemple. À la Vierge. Et là, j'ai retrouvé des litanies en faux bourdon à trois voix qui sont tout à fait extraordinaires. Alors, ce qui est très dommage, c'est qu'on n'ait pas pu enregistrer toute la litanie. Évidemment, on a enregistré une vingtaine, je crois, de versets seulement. Or, il y en a 60 ou 80, j'en sais rien. Les litanies à la Vierge sont très longues. Et je le regrette un petit peu parce que, si je puis dire, ça fonctionne avec la durée. C'est-à-dire, entendre des litanies d'un bout à l'autre, c'est tout à fait autre chose que d'entendre 20 versets de litanie. Alors ça, je le regrette un petit peu, mais je crois la partie musicale de ces litanies sont très belles, est très belle.
On tâchera, si on a une ou deux minutes en fin d'émission, avant de la coupure totale de l'émission, on tâchera j'avais imaginé qu'on terminerait l'émission en écoutant ces litanies précisément, parce qu'elles sont vraiment, très très belles. Alors, donc, reconstitution, donc c'est la première fois, moi, qui m'est donné d'entendre, je m'adresse aussi à mes autres invités, je pense pas que vous aviez encore entendu les parties musicales et liturgiques du vœu de Louis XIII.
Ah non, jamais.
Alors, donc...
Non, en peinture, on en connaissait.
Voilà, on connaissait.
De Champagne, bien sûr.
Célébrissime.
Célébrissime. En musique, non.
Oui. Et en sculpture aussi, puisque le vœu de Louis XIII a été en quelque sorte solennisé par son fils, Louis XIV, avec ces doubles, je crois que c'est dans Notre-Dame de Paris.
Ces doubles
rois agenouillés à l'hôtel Notre-Dame.
C'est de 1710, très peu de temps avant la mort de Louis XIV. Ouais. Il a voulu immortaliser le vœu de son père.
Alors il faut redire tout l'intérêt que présente cette production, qui est une espèce d'étape dans tout ce travail de reconstitution. Alors les gens, nos amis auditeurs, évidemment, peuvent être un peu choqués ou un peu suspicieux, parfois, quand on parle de reconstitution. Tout à l'heure, nous allons parler de restauration, mais là, nous parlons de reconstitution, parce qu'ils disent, oh bon, ben alors tout ça, c'est artificiel, etc. Il faut comprendre que pour toute la musique de cette époque, en fin de compte, et même un petit peu plus tardive, il est impossible d'avoir quasiment des partitions originales, c'est très très compliqué.
C'est très compliqué. La plupart des musiciens improvisaient, d'abord, il faut savoir ça. Les faux bourdons, par exemple, étaient improvisés à 2, 3 et 4 voix, ce qui est une prouesse prodigieuse. Ça prouve la technique vocale et de l'imagination qu'avaient les chantres à cette époque-là. Toutes les parties d'orgue, la plupart du temps, étaient improvisées. On a très très peu de partitions. En réalité, on a très peu de livres d'orgue. On a un merveilleux répertoire, nous, organistes, à jouer au XVIIe ou au XVIIIe siècle, mais c'est rien du tout par rapport à toutes les célébrations qui pouvaient avoir lieu dans la France entière, dans toutes les églises de France, toute la journée que Dieu faisait. Et les parties instrumentales, c'est pareil. On a très peu d'éléments pour savoir en quoi elle consistait. Donc tout cela, il faut le reconstituer. Il n'y a pas d'autre solution. Et même les organistes, très souvent, écrivaient eux-mêmes des livres. Alors on retrouve des livres d'orgue qui sont des espèces de compilations, bric-à-brac invraisemblables, où on trouve aussi bien des chansons de bergère que des transcriptions de marches d'opéra, autre chose comme ça. On ne sait pas du tout à quel moment ils jouaient ça, on ne sait pas du tout de qui c'est, on ne connaît pas l'auteur, quelquefois c'est l'organiste lui-même. Enfin, tout ça est finalement extrêmement vague. Une fois qu'on a... Plus on approfondit le sujet, plus on s'aperçoit
que c'est compliqué.
C'est extrêmement complexe.
Et on le voit alors, et si on remonte davantage dans le temps, si on se dirige vers la musique, disons, de l'époque de la Renaissance ou de la fin du Moyen-Âge, alors là, c'est encore
plus compliqué. On n'a pas les sources, là,
En plus, la notation est très compliquée, parce que là encore, c'est noté, je veux dire, à cette époque-là, c'est quand même noté comme aujourd'hui.
Oui, absolument. Il y a un autre phénomène aussi, effectivement, qui est contestable, puisque j'essaie de prendre le point que vous avez pris là.
Je me fais l'avocat du diable, je connais mes auditeurs.
Le point qui est contestable, c'est le temps qui est mis à célébrer ça. Évidemment, ce sont des reconstitutions musicales concentrées, c'est-à-dire comme ça n'est pas célébré, ce qui dure 1h20 dans un disque pouvait durer 3 heures, je suppose. Donc ça, effectivement, ça ne donne pas non plus une... Oui, je suis en train de démolir complètement tout le monde.
Non, je pense que votre travail se défend de lui-même, il suffit de l'écouter, et alors on est enchanté par... Et tout est très... Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout est très cohérent.
Alors ce qui est absolument prodigieux, et ça, on s'en aperçoit en concert, parce que nous avons donné ça, ça aussi, ça choque beaucoup les gens très souvent de donner des choses en concert, mais ça n'est pas célébré, c'est simplement la partie musicale. Bien évident que jamais nous ne ferions une célébration de cette chose-là. Ce serait totalement déplacé de nos jours. Ce qui est tout à fait prodigieux lorsqu'on donne ça en concert, on l'a fait au festival de Pontoise au mois de septembre, c'est la force qui vient de l'architecture de ces liturgies. C'est-à-dire que ces liturgies, on a l'impression que c'est une suite de psaumes, d'hymnes, de magnificat, d'antiennes, etc. Mais c'est pas du tout ça. Il y a une puissance absolument incroyable qui se dégage. Avec la lenteur, ça commence toujours très lentement. Il y a au moins une demi-heure qui est extrêmement difficile à faire passer. Et puis après, il y a une espèce d'agrandissement de la musique, un agrandissement des proportions. Et on a l'impression vraiment d'avoir affaire à un chef-d'œuvre, à une œuvre pure et simple, une œuvre artistique, simplement dans la progression, des morceaux musicaux.
En tout cas, ce morceau que nous venons d'entendre tout à l'heure, qui est le dernier morceau chanté, puisqu'après il y a une partie aux grandes orgues, enfin plein jeu.
Oui, c'est
exactement,
ça.
Pour que ce soit bien magnifique et ça ponctue magnifiquement le disque, a enchanté un certain nombre d'auditeurs, puisqu'il y en a qui nous envoie un petit message pour dire surtout de bien donner les références du disque de Jean-Pierre Brosse. Pour lui, le 15 août est toujours la fête nationale, et il aimerait acheter le CD. Vous voyez, ça sert à ça, la radio aussi.
Déjà un acheteur.
Donc je redis, sont les Vêpes de l'Assomption, le vœu de Louis XIII. Alors, l'auteur principal, si je puis dire, c'est le J'allais dire le grand Jean-François d'Andrieux, mais oui, on peut dire le grand Jean-François d'Andrieux.
C'est un merveilleux compositeur, c'est un magnifique compositeur du XVIIIe siècle, oui, qui est encore tout à fait à découvrir d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses d'Andrieux qui ne sont pas... Ah oui, oui, il y a un livre d'orgue tout à fait extraordinaire.
Il a vécu très peu de temps, hein, d'après la petite notice.
Oui, il est mort en 39, là, oui.
38, 80, 19, oui, 50 ans, quoi.
Oui, c'est ça. C'était un organiste très, très célèbre. Effectivement, on pouvait choisir, je dirais, n'importe quel autre auteur du XVIIe ou du XVIIIe siècle pour inclure ses œuvres dans cette liturgie.
Mais c'est bien. Moi, j'ai une grande tendresse pour d'Andrieux, mais vous n'avez pas déjà fait quelque chose
sur
d'Andrieux?
D'autres disent, je crois que la messe de Pâques.
Voilà, c'est de Pâques de d'Andrieux. Oui, tout à fait. Oui. Alors donc, il s'agit donc de l'auteur principal est Jean-François d'Andrieux, si l'on veut, mais le grand coordinateur, c'est quand même Jean-Patrice Brosse. Ce sont les Vêpes de l'Assomption, le vœu de Louis XIII, et c'est publié, c'est un disque Pierre Véranier. Alors ça se trouve absolument partout.
Je suppose, oui, Véranier est très bien distribué.
Alors j'aimerais encore que vous nous disiez quelques petites choses, peut-être plus générales, et puis après nous écouterons un extrait, on va demander à la technique de changer l'ordre de passage des disques, on va écouter un petit morceau des litanies, parce que quand même ça vaut la peine d'être écouté. Si, Patrick Simon fait des signes de dénégation derrière sa vitre, mais il n'est pas question, nous changerons l'ordre de passage de la musique. Le baroque. Parce que tout à l'heure, hors antenne, Emmanuel de Varesquiel disait qu'il rentrait d'un festival à Annonay, baroque, il l'avait absolument séduit, où là c'était des pièces baroques plutôt italiennes ou espagnoles, et je me suis retourné tout de suite vers Jean-Patrice Brosse en disant, mais comment se fait-il, cet engouement du public actuel ne durera-t-il pas? Ça c'est la question qui peut être posée, mais pourquoi cet engouement du public, moi j'ai bien une petite idée, mais pourquoi cet engouement du public sur le baroque aujourd'hui?
Sans doute parce que c'est une musique qui est très, très, très facile d'accès, qui est très populaire, qui est basée, vraiment basée sur des chansons populaires. Toute la musique, qu'elle soit d'orgue, de clavecin ou d'opéra baroque, de chant, de motet, etc., tout est fondé sur la chanson, tout simplement. Si on veut réduire à sa plus simple idée ce qu'est la musique baroque, c'est tout simplement une chanson populaire que tout le monde peut chanter, qui serait aujourd'hui de la chanson de variété. Et simplement, l'art du baroque, c'est de mettre cette chanson en musique de façon au minimum subtile et au mieux génial, oui, exactement. Oui, oui. Ce qui est très différent, je crois, du processus romantique, déjà, qui consiste à parler de soi. Alors, parler de soi, c'est très bien, mais ça peut aller vers une grande complexité. Et puis, alors, complètement aux antipodes du système contemporain qui consiste, lui, je crains, à éloigner beaucoup l'auditeur de son compositeur par une trop grande complexité.
Voilà, on ne citera pas de nom par délicatesse.
On n'aurait pas le temps de... Mais non, je pense vraiment que la musique baroque tire son intérêt de cette espèce de facilité. Le baroque, c'est tout simplement de la variété magnifique. C'est de la belle variété, de la variété de grande qualité, et surtout une musique accessible à tout le monde, ce qui n'est pas le cas des musiques qui vont suivre.
En fait, c'est une musique, c'est ce que vous l'aviez dit, le mot d'ailleurs est sorti de votre bouche, c'est une musique populaire.
Populaire, oui, avant tout.
Elle est populaire, mais elle est populaire parce qu'elle est, elle est en partage pour à peu près toutes les couches de la société, parce qu'on peut très bien imaginer, moi j'imagine ça très très aisément, la cour de Louis XIV se réjouissant à l'Alceste de Lully, mais il y a des airs dans l'Alceste, d'ailleurs qui m'arrivent à moi-même de siffloter de chantonner sous ma douche, mais on peut imaginer des peintres en bâtiment dans les rues de Paris, de Versailles ou de Bordeaux, en train de repeindre et de siffler l'air du passage aux enfers.
Voilà, et là vous citez quelque chose relativement facile, mais quand on pense à une fugue de Bach par exemple, la complexité d'une fugue de Bach. Alors je me tue à dire à mes élèves, mais ne prenez pas la fugue de Bach par son côté complexe. Vous finirez par comprendre le côté complexe, mais commencez par le côté simple, c'est-à-dire que toutes les fugues de Bach sont des chansons adaptées. Chaque fugue a un thème qui est, si on le regarde de près et si on essaie de le de le plonger dans la musique vivante de tous les jours est un thème que le peintre dont vous parliez en bâtiment pourrait
siffler. Ou la Cousette peut siffler l'air, etc.
Siffler l'art de la fugue et le thème de l'art de la fugue est un thème très simple.
C'est quand même une tragédie quand on y réfléchit de voir que cette musique qui était en fin de compte partagée par toute une société finit par se classifier. C'est-à-dire on va avoir la musique savante et puis la musique populaire. Bon, alors on peuple le musette, n'est-ce pas?
Absolument.
Et à la nouvelle aristocratie, la dodécaphonie.
Ah oui, c'est stupéfiant. Plus on va vers la démocratie,
je préfère le musette à la dodécaphonie. Ça,
et plus on va vers l'inégalité de l'accès. C'est curieux, une espèce de divorce.
C'est très
stupéfiant. Ce qui était très intéressant au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'était les diverses manières d'interpréter la musique. C'est-à-dire, c'était la même musique pour tout le monde, que ce soit le peintre de la rue ou l'aristocrate dans son hôtel. C'était la même musique qui n'était pas joué du tout de la même manière selon qu'elle était jouée dans la rue, au rez-de-chaussée ou au premier étage, à l'étage noble. Et ça, on le sait, nous autres musiciens, on sait qu'on ne jouait pas de la même manière. Par exemple, on faisait des notes inégales qui avaient plus ou moins de raffinement ou plus ou moins de vulgarité selon le lieu et pour qui on les jouait, et avec la même musique. Si vous prenez le tambourin de Rameau, ces innombrables pièces extrêmement simples, ce sont des pièces vraiment accessibles à tout le monde.
Mais quand elles sont jouées par des grands clavecinistes comme vous-même, ou je penserai aussi à Scott Ross, qui était un claveciniste,
un très grand claveciniste.
C'est inimaginable, cette façon de toucher le clavecin en jouant Rameau, c'est extraordinaire.
Et lui jouait Scarlatti aussi, qui était un musicien des rues. Et Scarlatti, il disait dans ses textes, dans ses partitions, il disait: je veux qu'on joue ses œuvres comme ce que vous entendez dans la rue. Ce sont les bruits de la rue que vous entendez qui doivent être reproduits.
On peut dire quand même qu'en Italie, peut-être que le divorce s'est passé un peu plus tardivement, puisque pendant toute la période du XIXe siècle, l'opéra italien est quand même extrêmement populaire et continue à l'être.
Tout à fait vrai.
Mais en France, effectivement, il y a une espèce de divorce. La musique se scinde en deux.
Une bourgeoisie.
La musique pour le peuple et la musique pour le...
D'abord pour la bourgeoisie.
Tout ça est bien triste.
Et maintenant, c'est pour les spécialistes, ce qui est dramatique.
Il faut beaucoup d'ordinateurs pour comprendre ce qui se passe maintenant. Là, je regardais une chose à la télévision il y a quelques jours. Je dirais pas le compositeur, son nom est très célèbre. D'ailleurs, quand on voit ce dans quoi il habite, on comprend la musique qu'il fait. Je dis pas le nom, parce que même la tête sur le bio, je refuserais de dire le nom. Mais enfin, c'est absolument... Si ces gens n'étaient pas subventionnés, je sais pas ce qu'ils feraient. C'est caissier chez...
Je vois de qui vous voulez parler.
Oui, vous voyez, il a un nom qui est un prénom. voilà. Une auditrice rebondit sur la remarque que vous avez faite tout à l'heure. Je voulais vous y faire rebondir et puis la conversation a continué. Elle dit: pourquoi dites-vous que ces liturgies ne peuvent pas être célébrées de nos jours car démodées?
Je n'ai pas dit démodées.
Non, ça c'est vrai, vous n'avez pas dit démodées, mais elle rajoute. Car démodées, point d'interrogation.
Non,
ça,
pas du tout pas du tout démodé. C'est très difficile à expliquer ça. Je pense que l'évolution de la pratique religieuse telle qu'elle est depuis une trentaine d'années ne permet plus de vivre ces liturgies-là de l'intérieur avec en attachant l'importance qu'on pouvait y attacher au XVIIIe siècle, où on savait le symbole de chaque mot, où on savait le symbole de chaque phrase latine et de chaque inflexion grégorienne. Aujourd'hui, ce serait un spectacle, je veux dire. C'est pour ça, c'est tout à fait... évidemment, je regrette beaucoup que nous ne puissions plus faire ça, mais je pense que ce serait un spectacle, ce serait un concert avant d'être une liturgie vécue. Donc ça ne me paraît pas du tout être le but de ces liturgies. Donc je pense qu'il vaut mieux y renoncer.
Oui.
Et puis, mon avis n'importe pas du tout.
Non, mais peut-être que pour un grand anniversaire ou peut-être.
Non, je ne crois pas. Ce serait pris pour un concert, pour un spectacle, et c'est exactement le but contraire.
Ouais. Parce que, par exemple, moi, il m'arrive de temps à autre, pas tous les ans, mais il y a une institution qui est très très aimable, très estimable, c'est la messe de fondation des Invalides. Donc il y a une messe quasiment perpétuelle qui est célébrée logiquement aux intentions du fondateur des Invalides, c'est-à-dire Louis XIV, et qui est toujours célébré dans la chapelle Saint-Louis, qui est en fait aujourd'hui cathédrale, puisque le vicaire aux armées est désormais évêque, donc évêque aux armées. Et dans les dernières années, que est célébré le dernier dimanche de septembre, et dans les dernières années, nous avons eu souvent comme kyriale la messe royale de Dumont.
Oui.
Mais c'est très priant.
Bien sûr,
c'est très brillant, c'est pas spectaculaire, je veux dire, c'est pas mal.
Mais pour vous qui avez l'habitude peut-être d'entendre des liturgies anciennes, oui, il y a toute une partie des fidèles qui est encore habituée à ça.
Oui, beaucoup de gens connaissent par cœur la messe royale de Dumont. Elle est encore dans mon missel, d'ailleurs, dans mon fédère qui est quand même dans la date de 63-64, ça remonte de ce siècle, n'est-ce pas, de 1963-64. Donc ça remonte quand même pas à Mathusalem. Et il y a encore dans le kyrial la messe royale de Dumont.
Ah, mais beaucoup de gens sont comme vous et beaucoup de fidèles sont tout à fait prêt après à écouter ça et à prier sur cette musique, mais je crains que l'habitude maintenant, ça fait une génération et demie qui vit d'une autre musique, qui est une musique à mon avis de mauvaise variété, celle-là contrairement à la musique du XVIIIe siècle qui était une musique de bonne variété, on est aujourd'hui une musique de mauvaise variété et je vois, il faudrait une rééducation considérable de l'oreille pour pouvoir voir, entendre autre chose qu'un concert.
Une restauration.
Une restauration. Bien enchaîné.
Alors, nous allons nous empresser aussi de parler de d'une autre restauration. Donc, vous avez peut-être quelque chose à ajouter, Jean-Baptiste.
Est-ce que vous ne voulez pas lire quand même ce petit extrait du vœu, qui est quelque chose, comme vous disiez
alors,
tout à l'heure, on l'entend le 15 août.
Petit. Allez-y, est-ce que vous avez assez de lumière?
Oui, je suis un très mauvais lecteur. Parce que c'est quand même
magnifique.
Je dis dans le texte, c'est quand même un concentré théologique absolument stupéfiant. Vrai, oui. Alors voilà ce que dit Louis XIII. Nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de la Majesté divine, que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous révérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils, rabaissé jusque à nous, et à ce Fils par sa mère, élevé jusque à lui. Splendeur. En la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste, par son autorité et exemple. Je trouve absolument extraordinaire nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusque à nous et à ce Fils par sa mère élevé jusque à nous.
C'est presque du Pascal.
C'est
super. Et ça, on sait que Richelieu a beaucoup travaillé sur ce texte aussi, parce qu'il y a plusieurs états du vœu, qui n'est pas un vœu qui a été fait pour avoir le
pas
petit
du tout,
Louis
pas
donné.
Du tout.
Hein,
on croit toujours que c'est pour la naissance de Louis XIV, mais pas du tout. Il n'est pas du tout question de Louis XIV.
C'est quelque chose de tout à fait remarquable.
Ah, c'est prodigieux.
Remarquable, oui. Un très très beau texte. Merci de l'avoir lu. Merci surtout d'avoir mis tout cela en belle et bonne musique, d'avoir reconstitué ces vêpres de l'Assomption et suivi de toute la musique liturgique du vœu de Louis XIII. Alors c'est un disque Pierre Verani, Jean-Patrice Bosse, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous restez avec nous d'ailleurs.
Oui, je pense que
ça va aussi vous intéresser. Et nous allons donc, pour faire une petite, comme l'on dit habituellement, respiration musicale, nous allons, si la technique le veut bien, passer quelques minutes des litanies.
Le 7 novembre 1987, Radio Courtoisie diffusait sa première émission en direct. Depuis lors, chaque 7 novembre, nous fêtons ensemble la langue française. Jeudi 7 novembre, venez célébrer avec nous le 9e anniversaire de Radio Courtoisie. Venez participer à notre dîner au Palais de la Mutualité. Le prix du couvert est de 300 francs, 220 francs seulement pour les adhérents de notre association. Facilitez notre tâche en réservant dès maintenant. Veuillez envoyer un chèque correspondant au nombre de couverts réservés à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci de joindre aussi une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Noté, 300 francs par couvert et 220 francs seulement si vous êtes adhérent. À jeudi 7 novembre pour dîner ensemble.
Nous sommes tous encore sous le charme de, au sens fort, le charme au sens fort de cette litanie. D'ailleurs, Patrick Simon, qui est un grand amateur de litanie, en est absolument bouleversé derrière sa classe. Alors, beaucoup de messages sont arrivés pendant que nous passions cette respiration au sens propre musical. Une auditrice nous demande où peut-on se procurer le texte intégral du vœu de Louis XIII. Eh bien, on le trouve notamment dans le livre de l'abbé Laurentin. Il peut arriver qu'il figure dans certains missels.
Très réduit, je crois. Ce sont des extraits. Mais dans le livre de Laurentin, il y a les diverses étapes de la rédaction.
Vraiment, on conseille ce livre, non seulement parce que vous le trouverez chez un éditeur tout à fait ami, François-Xavier Guibert, mais ce livre est vraiment magnifique. Donc, procurez-vous ce livre. S'appelle Le vœu de Louis XIII. C'est un livre que l'abbé Laurentin avait publié, donc évidemment en 1988, à l'occasion du 350e anniversaire du vœu de Louis XIII. Deux questions sont arrivées pour Jean-Patrice Beau. Je les lui pose rapidement et il va y répondre également rapidement. Que peut répondre M. Brosse à ceux qui, quelquefois avec un peu de mauvaise foi, nous demande un auditeur, fustige l'utilisation des instruments anciens? Je pense, ajoute cet auditeur, particulièrement à la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, dans laquelle ils sont indispensables.
Absolument indispensables. Je vois pas comment... Cette musique-là, on ne peut absolument pas la faire avec des instruments modernes, c'est évident. Et maintenant, les instrumentistes baroques, avec des instruments baroques spécialisés, jouent remarquablement bien. Donc les instruments modernes sont peut-être adaptables à une certaine musique fin XVIIIe siècle, mais vraiment avec toutes les précautions.
Ça impose. Un autre auditeur, alors un petit peu plus critique, ne dites pas, nous écrit-il, que la musique baroque est comparable aux variétés, entre guillemets. Cela n'a rien à voir, autant la musique baroque est élaborée, autant les variétés sont déstructurées et peu harmonieuses. Ce n'est pas parce que les gens fredonnaient les airs que c'était de la musique populaire. Merci pour la rime est très riche.
Non, mais je crois que je reste sur mes positions. Moi qui déteste les variétés en général, je dis que la musique baroque est à la base une musique extrêmement populaire, une musique de très bonne variété.
C'est la musique du peuple de France qui était composée à cette époque-là de trois ordres.
C'était un peuple de génie.
Voilà. Merci Jean-Patrice Boss, merci pour cette belle vêpre de l'Assomption suivie de la liturgie du vœu de Louis XIII. Et nos auditeurs vont se précipiter, j'espère, dès demain chez les bons marchands de disques et même chez les mauvais. Et également chez les charcutiers un peu distraits. Peut-être trouveront-ils votre disque. C'est édité en tout cas chez Pierre Verani. Pendant ce temps, on nous apporte les rafraîchissements, ce qui fait une doucette chaleur dans ce studio.
Je peux me permettre
vous pouvez tout vous permettre, c'est ici chez vous.
Merci beaucoup. Je voudrais savoir combien de temps vous avez mis pour préparer ce disque, le nombre de mois de recherche que ça a représenté.
C'est difficile à dire, on en fait plusieurs en parallèle. Disons une année de travail, oui, de recherche. On fait plusieurs liturgies parallèlement, puis j'enregistre d'autres choses. Enfin, c'est un petit peu difficile, un peu morcelé comme travail, mais c'est un travail de très longue haleine, parce que très souvent on trouve des renseignements qui seront utiles pour une chose qu'on fera dans 3 ou 4 ans. Donc c'est très difficile, vraiment, mais reste un très gros travail de recherche, puis d'interprétation après, d'enregistrement.
Et essentiellement la bibliothèque historique des villes de Paris.
Emmanuel de Varesquiel.
Non, dont beaucoup de bibliothèques françaises. Certains faubourdons viennent de la bibliothèque de Bordeaux, dont d'autres viennent de la bibliothèque Ingabertine de Carpentras. Il y a des choses qui viennent de la bibliothèque historique. Toute la partie grégorienne vient du graduel des convennes de 1774 qui est à Saint-Bertrand-de-Comminges dans la sacristie. Donc non, les sources sont très 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 variables.
Alors du Bourdon au Bourbon, de la reconstitution à la restauration, les liaisons alors sont dignes de je ne sais quel animateur de jeu radiophonique, mais enfin tant pis, je l'ai fait. Alors je salue donc la présence dans le studio de Benoît Hivert et Emmanuel Levaresquel. Alors Benoît Hivert, je le représente comme le fondateur et le secrétaire général de la Société d'Histoire de la Révolution, de la Restauration et de la Monarchie Constitutionnelle, et Emmanuel Levaresquel, je le présente comme co-rédacteur en chef de la Revue d'Histoire de la Restauration.
C'est la même, non?
Oui, c'est la même société.
Oui, mais alors vous, il y a la société et la revue.
Mais c'est la même chose.
C'est pareil.
Oui.
Bon, alors vous êtes tous les deux... Enfin, bon, je vous ai...
La revue est une émanation
de l'association. Bon, voilà. Vous êtes vous-même aussi dans l'association.
Oui, bien sûr.
Alors, vous avez fait tous les deux un livre dont il est difficile de départir ce que l'un a fait et pas l'autre, encore qu'à la fin de l'ouvrage, on nous signale que le chapitre 1, 2, 3, etc. est de M. Hivert et le chapitre 4, 5, 6 de M. Varesquel. Mais en tout cas, c'est un livre extrêmement harmonieux dans sa composition. Et c'est très difficile de travailler à deux.
Non, si on a la même problématique, si on la partage, c'est pas difficile. On avait plus d'appréhension sur les sautes de style éventuelles, qui n'existent pas, je crois,
non.
que sur la méthode d'une part et la problématique de l'autre, qui nous était tout à fait commune.
Alors, vous traitez de manière assez complète, moi qu'on puisse dire, de la restauration, puisque vous proposez au public une histoire de la restauration, 1814-1830. Oui, moi j'avais dit tout à l'heure 1815, mais par prix, vous avez eu tort, parce que fait, ça commence en 1814,
seconde enfin,
il y a la seconde restauration. Et comme dirait Jean Dutour, j'attends avec intérêt la troisième restauration. Et que vous avez sous-titré, je pense que ça fera l'objet du débat que nous aurons en dernière partie de cet entretien, Naissance de la France moderne. C'est pas très évident pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ou pour moi-même d'ailleurs, pas jouer ici au grand savant, parce que la restauration, je l'ai découverte sur le tard, c'est le cas de le dire. Comme je le disais tout à l'heure en manière de plaisanterie à Benoît Hiver, je disais que pour ce qui est de la restauration, le public français se décomposait en trois gros groupes, si vous voulez. Et il y a les gens qui ignorent ce qu'est la restauration. Il y a ceux qui s'en fichent. Par exemple, c'est cette quatrième, alors c'est une quatrième étape. Il y a ceux qui s'en fichent complètement. Et puis, il y a quand même une petite phalange de chercheurs jeunes, puisque vous, messieurs, vous êtes quand même des gens jeunes, en tout cas plus jeunes que moi, qui s'intéressent énormément à cette période, ils ont bien raison de s'y intéresser, et qui découvrent des choses tout à fait passionnantes. En fait, c'est une période courte de l'histoire, et comme toutes les périodes courtes de l'histoire...
Mais dense.
Mais extraordinairement dense, puisque cette affaire n'a duré que 15 ans. Elle venait après un tremblement, un séisme de magnitude de 124 sur l'échelle de Richter de l'histoire humaine. Et pourtant... alors, vous ouvrez votre livre, là, je veux dire, c'est une phrase qui peut quand même arrêter le lecteur, voyez-vous. Vous dites, la restauration est née par défaut et morte par bêtise. Alors, je vais peut-être vous demander quand même un petit mot d'explication là-dessus avant d'aller plus loin.
Mais on essaie, c'est justement ce qu'on essaie d'expliquer dans le reste du livre. La restauration est née par défaut, c'est-à-dire qu'en 1814, c'est la seule solution politique restante, après que la France ait parcouru toutes les gammes de régimes possibles depuis 1789. Et ça, Emmanuel le démontre très longuement et très efficacement durant les 50 premières pages de l'ouvrage. Et elle est morte par bêtise, parce qu'à partir du moment où elle était la seule solution possible, et que la quasi-totalité des forces politiques s'y ralliaient, ce qu'on démontre également, elle ne pouvait tomber qu'à cause de raisons tout à fait qui ne paraissaient pas évidentes au départ. Et par bêtise, parce que le pouvoir royal... pris dans une situation de crise, plutôt que d'essayer de calmer le jeu, on essayait, dans l'entretien tout à l'heure, d'évoquer les parallèles entre Louis XVIII et Charles X, plutôt que d'essayer, comme Louis XVIII le faisait, de calmer le jeu en cas de crise politique, Charles X a choisi le durcissement et d'aller jusqu'à l'affrontement. Bêtise également, parce que si on choisit d'aller vers l'affrontement, a priori, on en prend les moyens. Et il y a eu non seulement une erreur dans ce choix, mais ensuite le choix a été mal accompli. Il n'y a pas eu de préparation de cette révolution, de ce coup d'État royal de 1830. Mmh. Donc c'est d'une certaine manière une double bêtise.
Alors vous disiez aussi, en antenne tout à l'heure, vous disiez qu'en fin de compte, la grande difficulté qu'a trouvé la Restauration, ça a été son expression institutionnelle. C'est-à-dire, évidemment, la monarchie telle que l'avaient connue les siècles précédents, avec quand même des grosses modifications, parce que quand même, bon, l'institution royale n'est pas exactement la même sous Saint-Louis, sous Charles VII, sous les derniers Valois, ou sous Louis XIV, ou sous Louis XVI. Et donc l'institution elle-même a des capacités d'autoréforme, et en fonction de l'évolution de la société, de la situation internationale, des crises internes qu'elle connaît elle-même, des problèmes de régence de minorité, par exemple, bon, elle s'auto-réforme. Et il est évident qu'il était impossible de restaurer ce que plus de 30 années avaient effacé. On ne peut pas, il est impossible de restaurer une monarchie de la...
Dans ce sens, dans ce restauration en trompe-l'œil. Mm-hmm. Il ne s'agit pas de restaurer la période pré-révolutionnaire, il ne s'agit pas de revenir à 1789, il s'agit d'essayer de tenter ce qui a été, ce qui s'est révélé être un grand écart entre ce qu'on pourrait appeler la nation issue de la Révolution et la prérogative royale qui est représentée par la légitimité, c'est-à-dire par les deux frères de Louis XVI. Mmh. C'est cette espèce d'adéquation qui n'est absolument pas systématique et qui s'est vécue, qui a été vécue comme une expérience politique pendant 15 ans, qu'essaye de réaliser et qu'est la Restauration. D'où toute la difficulté et en même temps d'où toute l'immense richesse politique de production des idées politiques qui se dégage de ce non-système.
Parce que vous avez donc travaillé, bien évidemment, il y a eu quelques ouvrages de grand intérêt qui ont paru sur la Restauration, notamment ceux du Réempereur Berthier de Souvigny, qui a fait quand même beaucoup de travaux sur cette période de l'histoire, à la fois pour des raisons de goût historique et aussi pour des raisons d'hérédité, puisque lui-même a eu un ancêtre qui était très actif à cette époque de la Restauration, autant que je me souvienne. Voilà, vous avez l'affaire de la Congrégation, c'est bien, je ne me trompe pas, non ?
Grand maître, chevalier de la foi.
Chevalier de la foi. Chose un peu mystérieuse d'ailleurs, cette affaire. Enfin, on ne va pas en parler ce soir. Mais vous avez beaucoup travaillé sur, plus que sur archives, je dirais, sur les documents qui ponctuaient la vie politique de cette époque, où il s'est imprimé des centaines de brochures ou beaucoup de journaux représentant différentes tendances politiques sont nés. C'est une période d'intense fourmillement des idées qui, bien sûr, s'expriment sous la forme imprimée. Et vous avez lu patiemment toutes ces brochures. Donc, votre ouvrage est quand même très, très documenté.
On a essayé de revenir, effectivement, on a essayé de ne pas partir de la période par rapport à ce qu'on en savait maintenant, et le plus possible de ne pas connaître le fin mot de l'énigme, c'est-à-dire d'avancer en même temps que les acteurs, en lisant au fur et à mesure de leur année de parution les principales brochures, les principaux journaux, et en s'appuyant surtout sur des sources contemporaines, pour essayer de retrouver l'esprit de la période.
Et peu exploité jusqu'à aujourd'hui.
Voilà. C'est l'aspect novateur du livre, même si effectivement il s'inscrit dans une longue chaîne de travaux qui a été inaugurée par le Charles-Hippolyte Poutas, poursuivi par le père de Berthier. Il faut aussi citer les travaux plus récents et très intéressants pour l'histoire des idées politiques de François Furet ou de Pierre-Jean Valin.
Oui. Mmh. On a essayé de montrer que cette période n'était pas une sorte de fin ou de queue d'ancien régime, mais que c'était vraiment une période fondatrice de notre histoire politique contemporaine par un certain nombre de choses, par le parlementarisme, par la naissance d'un certain nombre de partis ou de courants politiques qui vont se prolonger pendant tout le 19e et aussi pendant le 20e siècle, par les rapports, un certain nombre de notions comme celle de la représentation, qu'est-ce que c'est que les rapports entre deux chambres et un pouvoir exécutif. Tout ça, ce sont des expériences qui, au fond, n'ont pas été véritablement vécues sous la Révolution à cause de la Révolution elle-même, et qui n'ont pas été vécues sous l'Empire, parce que l'Empire est une période absolument pas libérale. Donc, c'est la naissance d'une certaine forme de libéralisme politique qui a vraiment le temps de s'exprimer pendant 15 ans, qui sont 15 années de relative paix, même si on met entre parenthèses les deux premières années qui sont quand même
encore un peu bouleversées,
assez agitées, puisqu'on a trois changements de régime, deux occupations de territoire par les armées alliées anglaises, autrichiennes, prussiennes et russes, et une bataille célèbre qui est Waterloo. Mais ensuite, on aborde une période de paix relative où cette expérience politique peut se faire, et où elle se fait avec une relative unanimité, en tout cas de la part de ce qu'on appelait la nation politique, c'est-à-dire des gens qui participaient électoralement à la politique, les censitaires, ceux qui payaient, qu'on appelle ainsi, payaient le sens, plus de 300 francs d'imposition. Voilà.
Est-ce que, encore une autre question que je me pose, je vous pose des questions au fur et à mesure qu'elles me viennent, parce que je suis très content de vous avoir et donc les questions se bousculent dans ma tête. Est-ce que, et on en parlait également avant le début de cette émission, est-ce que une des ambiguïtés de ce régime de la Restauration, ce n'est pas la charte en fin de compte ? Est-ce que la charte en elle-même n'est pas ambiguë, D'abord, elle est octroyée, donc c'est pas une constitution, comment dire, qui serait...
C'est pas un pacte.
Bon, c'est pas un pacte. Non. Bon, c'est pas un pacte. C'est pas une constitution ratifiée.
Ni par les chambres.
Ni par les chambres, ni par un référendum, ni par rien du tout. Bon, je sais que les exemples passés de restauration de, comment dire, de... d'aval de néo-constitution, c'est de la blague, c'est pas la constitution de l'an 3, c'est une véritable rigolade. Quand on voit qui votait, c'était de la... bon, ça a quoi rigoler. Elle est octroyée. Et c'est-à-dire que c'est le fait du prince, en fin de compte, qui donne une charte, c'est-à-dire qui donne une... on peut appeler ça une constitution, écrite.
Oui, donc écrite, c'est aussi le signe, quand on parlait de restauration tout à l'heure, c'est qu'il était très difficile de restaurer l'Ancien Régime pour une raison toute simple, c'est que l'Ancien Régime n'était pas codifié. Il y avait un débat entre les partisans ou non d'une constitution de la France, mais cette constitution était de toute façon tacite. Or, déjà, le fait d'inscrire ce régime par un acte écrit prouve à quel point la Révolution a imprégné les esprits. C'est aussi le signe qu'on est prêt, après 25 ans de troubles politiques, on peut même dire 40 si on monte à la crise parlementaire de 1771, à accepter une libre confrontation des idées. Mais bien entendu, l'ambiguïté que soulignait tout à l'heure Emmanuel se retrouve, pour répondre à votre question, dans l'acte fondateur, parce que le pouvoir royal se proclame, il y a aussi tout le préambule, omnipotent, lui seul octroie, donc fait libre don de cette charte, mais il lui jure également d'y rester fidèle, il lui jure d'y prêter serment, ce qui est une forme également d'allégeance qui engage ses successeurs. Et il y a aussi, concernant le parlementarisme, un élément qui est crucial, c'est qu'on accorde deux chambres, mais dont une va être élue, et on lui accorde le droit de regarder le budget en premier, ce qui est un signe que son avis va être indispensable pour faire fonctionner les institutions. Et enfin, on ne lui donne pas du tout l'initiative parlementaire, mais on la laisse supplier le roi de prendre en considération un projet de loi. La charte, c'est souvent exactement l'inverse, article par article, de la Constitution de 1791. Où la Chambre avait l'initiative des lois et où Louis XVI pouvait supplier la Chambre de prendre un objet en considération. Donc, Louis XVIII, qui est obsédé, comme tous les acteurs politiques de cette période, par la Révolution, tente un retournement historique, mais tout de même laisse une place au parlementarisme.
Et cette charte, on peut dire, Emmanuel Varesquel, qu'elle est un peu qu'elle est ambiguë, parce qu'il y a deux lectures possibles de la charte. Il y a la lecture qui donne, effectivement, le préambule vient d'être rappelé par Benoît Hiver, l'origine de tout vient du roi, en fin de compte. Bon. Mmh. Et puis, il y a l'autre lecture possible, qui est une lecture plus parlementaire.
C'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est que les réactions sont absolument, dès le départ, à front renversé. C'est-à-dire qu'au fond, les partisans de la monarchie vont critiquer très violemment, dès le départ, cette charte qui réserve une très grande place à la prérogative royale et à l'exécutif, parce que cette charte, dans un certain nombre de ses articles, s'occupe aussi de la société et accorde un grand nombre de libertés à la société, liberté d'expression, liberté religieuse, liberté de réunion. Donc un certain nombre de libertés qui sont perçues par ce qu'on appellera les ultra-royalistes, c'est-à-dire les partisans en partie, c'est un peu compliqué, d'un retour à l'Ancien Régime, qui seront perçues comme négatives. Ils ne verront pas l'importance que donne la charte au pouvoir exécutif. Alors que, à contrario, les libéraux vont, dès le départ, accorder une grande espérance dans ce texte et y voir, au contraire, une avancée très nette des libertés et du libéralisme politique. Donc ce sont deux lectures qui sont absolument antinomiques et qui sont, je dirais, au départ, par rapport à la lettre de la charte, deux fausses lectures. D'où toute cette ambiguïté qui va s'installer et qui va ne faire que grandir avec l'expérience politique progressive de ce texte qui va se faire dans les rapports qui vont évoluer avec une dérive parlementaire très importante au cours de ces années entre la prérogative royale, entre le roi d'une part et les chambres de l'autre. Les chambres étant donc une chambre élue, comme l'a dit Benoît Hiver, la chambre des députés, des départements, mais aussi une chambre nommée par le roi, qui est la chambre des pairs,
qui est censé représenter, là aussi c'est intéressant sur le plan social, c'est un des aspects passionnants de cette période, la fusion des élites, ce qu'on appelait la Nouvelle France et l'Ancienne France, c'est des anciennes élites issues de l'Ancien Régime et des nouvelles élites produites par la Révolution et l'Empire. Et cette Chambre des Pairs était censée créer une sorte, une seule élite représentée par ces deux courants différents et qui ont été en partie antagonistes en 1814 avec le retour des Bourbons.
Ça c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est quand même une expérience unique dans l'histoire de France, quand on y réfléchit bien. Tout le monde connaît ici, et les auditeurs en particulier, ce qui se passe quand un président des États-Unis est élu. On change absolument toute l'administration, ça, du dernier grade papier au secrétaire de bureau, tout le monde vire et on met à la place, n'est-ce pas, les hommes qu'on a préparé ces faits. Et là, la restauration arrive à un moment, les anciennes élites, qui subsistent encore, mais elles ont quand même été en grande partie, soit par l'effet de l'âge, soit par l'effet du rasoir national, elles ont quand même été quelque peu écrêtées. Bien. Il y a d'autres élites qui sont arrivées, ce sont celles dont l'Empire a su faire ses cadres. Et la Restauration, le roi Bourbon, Louis-XVIII, il doit à la fois faire avec, évidemment, puisqu'il n'y a pas tellement d'autres personnels politiques, mais en même temps, je crois qu'il veut faire avec.
Il lui doit d'abord sa couronne. C'est le Sénat impérial qui vote la déchéance de Napoléon. C'est un ancien ministre ô combien puissant de Napoléon, Talleyrand, qui règle les conditions de la restauration.
Oui, enfin ça c'est un peu... Dire que c'est le Sénat qui rétablit les Bourbons, c'est quand même un peu... Malgré... Ça se discute quand même. Bon, officiellement, si vous voulez. Mais enfin, quel était le pouvoir du Sénat à cette époque-là dans la débandade totale? Moi, c'est une solution politique qui s'impose et auquel tout le monde se rallie. Et il y a une espèce d'acte formel du Sénat disant, bon, on appelle au trône, etc.
C'est vrai. Il y a aussi également...
Mais l'Église de la République ne l'ai-je pas toujours été, roi.
Il n'y a pas l'entourage hein, non plus, comme vous le soulignez. Il n'y a quand même pas un entourage. Il n'arrive pas clé en main avec une équipe prête à prendre le pouvoir.
Clair.
Donc, par sagesse, parce qu'il a beaucoup réfléchi à la chose depuis le consulat, Louis XVIII a évolué vers un système où il tente d'opposer au fantôme de la Restauration, qui est agité depuis 1792, en expliquant à tous les protagonistes de la Révolution, si les Bourbons arrivent, on vous coupera la tête. D'où la solidarité des révolutionnaires entre eux. En tentant d'inverser, là aussi, la donne, en expliquant que la Restauration, c'est la contre-révolution, mais la contre-révolution, liberté, c'est l'opposition du libéralisme politique face à la terreur. Et le contre-fantôme, ça devient Robespierre. Donc à partir du moment où il choisit une ligne qui va être plus libérale, il est obligé d'accepter tout le personnel politique, avec ses symboles forts, comme l'entrée de Fouché au ministère en 1815.
Ouais, une petite remarque qui est quand même intéressante, c'est qu'il ne faut pas oublier, vous parlez d'hommes vieux à propos de cette élite issue de l'Ancien Régime, mais la génération au pouvoir sous la Restauration, c'est la génération des hommes qui sont nés entre 1750 et 1760, grosso modo. Donc c'est une génération qui a parfaitement vécu la Révolution.
Ils l'ont vécu, mais jeune.
Oui, mais suffisamment conscient quand même pour prendre parti dans un sens ou dans un autre
de cette
révolution. Et ça, c'est aussi un des intérêts de cette période, c'est qu'on a une confrontation entre deux générations. D'une part, une génération qui a donc vécu la Révolution et l'Empire, qui grosso modo était âgée d'une vingtaine d'années en 1789, et puis une nouvelle génération, c'est grosso modo la génération des Thiers, des Guizot, qui arrive après la Révolution et qui n'a pas connu, alors là pour le coup qui était trop jeune sur la Révolution, qui n'a pas connu la Révolution. Et ça aussi, c'est cette confrontation entre deux générations extrêmement riches qui est intéressante à cette époque de la Restauration.
Mais quand Louis dit « je ne serai pas le roi de deux peuples », on peut quand même lui prêter de la sincérité dans la démarche politique.
Mais complètement, c'est même sa volonté. C'est justement cette volonté de fusion des anciennes et des nouvelles
élites. D'où le rappel d'Henri IV, excuse-moi.
D'où le rappel d'Henri le roi réconciliateur des protestants, des catholiques,
permanent,
etc.
Ah oui, qui est le grand mythe de la Restauration. Le roi de la fusion des catholiques et des protestants, eh bien, on s'en réclame sous la Restauration parce qu'on tente la fusion de la France nouvelle et de l'ancienne France.
Ah oui, on le met partout, Henri IV, y compris d'ailleurs en médaillon sur la Légion d'honneur, qui est un ordre maintenu. qui n'empêche pas que les autres ordres de maisons traditionnelles des Bourbons aient continué à être distribués, le Saint-Esprit, le Saint-Michel le, aussi, et le Saint-Louis, mais on maintient la Légion d'honneur, on en modifie un petit peu la forme. On garantit les biens nationaux, évidemment. Bon, alors cette Légion d'honneur, on en refait vraiment une croix, c'est-à-dire une croix à quatre branches, parce que la Légion d'honneur de Napoléon, c'était cinq branches. Et puis au milieu, on met un médaillon, on met Henri IV. C'est le seul ordre très, très antique et vénérable et qui continue encore à se distribuer aujourd'hui.
Fouché a une phrase assez amusante en 1814, il dit que Louis XVIII se couche dans les draps de Napoléon, et c'est vrai que ce soit le code civil, que ce soit le centralisme administratif mis en place par la Révolution et surtout par l'Empire, tout ça est conservé et utilisé, je dirais, dans un certain sens, par la monarchie restaurée en 1814. Et l'un des grands débats qui est toujours d'actualité aujourd'hui, et qui est véritablement d'une très grande richesse et qui démarre à cette époque, c'est celui de centralisation-décentralisation. Avec encore une fois des attitudes à front renversé, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on appelle les ultra-royalistes, c'est-à-dire grosso modo la droite et l'extrême droite, sont, avant de passer au pouvoir, avant d'arriver au pouvoir, tout à fait favorables à une décentralisation dans l'esprit des anciens corps intermédiaires de l'ancien régime, d'un retour aux parlements régionaux, etc. Et une fois au pouvoir, vont finalement abandonner toutes ces idées relativement riches, évoquées jusqu'en grosso modo 1820-1822, pour s'adapter très facilement à ce centralisme administratif issu de l'Empire, très commode. Et à contrario, les libéraux vont suivre le chemin exactement inverse. Merci. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord se réclamer du centralisme administratif, du jacobinisme, hein, jusqu'en 1820, et ensuite évoluer vers des idées de décentralisation, notamment à travers la revendication de l'élection des conseils municipaux et ce qu'on appelait les conseils, ce qu'on appelle toujours les conseils généraux, les conseils d'arrondissement. Voilà.
Il y a une phrase, on va peut-être conclure sur cette phrase d'ailleurs, et j'aimerais vous avoir quelques mots d'explication. Vous dites notre actuelle monarchie républicaine, vous mettez bien sûr des guillemets, présente d'étonnantes similitudes avec la Restauration. Alors, Benoît Hiver, vous pouvez nous donner une petite explication là-dessus.
Bah, écoutez, oui, il suffit d'une brève comparaison. Bon, vous accordez bien sûr, vous enlevez l'élément héréditaire. D'accord, c'est quand même essentiel. Cela dit, vous avez un régime avec un exécutif fort, avec une certaine aura du pouvoir exécutif qui est maintenue jusqu'à nos jours. Les institutions de la Ve République accordent un certain charisme, qu'on le veuille ou non, au président, qui n'est pas sans évoquer celui de l'ancienne royauté, avec un mandat long également. Vous avez deux chambres, une chambre qui a l'initiative, qui est le nerf de la pensée, et une autre qui est une chambre des sages. Vous avez des institutions décentralisées imparfaites, comme on les trouve sous la Restauration. Oui, il y a quand même beaucoup d'éléments de
similitude. J'irai même plus loin que Benoît Hiver. Je dirais, au risque d'émettre une opinion hérétique, que sous la Restauration, le régime était presque plus parlementaire. Non pas par les pouvoirs que donnait la charte aux chambres, mais par l'impact qu'avait la chambre sur l'opinion publique par rapport à l'impact qu'ont nos chambres à l'heure actuelle sur notre opinion publique. C'était une formidable caisse de résonance. Il faut essayer de comprendre les passions suscitées par les débats parlementaires de l'époque autour de notions pour lesquelles on a totalement l'habitude, on est anesthésié par des notions comme celle de la liberté de la presse, qui étaient véritablement des enjeux très importants à l'époque, avec des débats théoriques d'une très très grande richesse, et d'où cette influence des chambres que je ne vois pas. Oui. Aussi importante aujourd'hui, sous la Ve République. Oui. Même si les chambres ont en fait beaucoup plus de pouvoir maintenant.
Oui. Enfin, elles en auront peut-être de moins en moins parce que les choses se discutent ailleurs, semble-t-il, qu'au sein de nos assemblées. Merci de votre présence, de toutes vos explications. Donc, je rappelle que nous avions le plaisir de recevoir Emmanuel de Varesquel et Benoît Hiver, co-auteurs d'une histoire de la Restauration, qui essaye de montrer à ses lecteurs comment cette période méconnue, mais extrêmement riche, peut être présenté aujourd'hui comme la naissance de la France moderne. Et rien que pour cela, ce livre méritait d'être cité ici. Et surtout, il méritera d'être lu et d'être médité. Il y a beaucoup de choses à en tirer, même si le débat pourrait, à n'en plus finir, se développer. En tous les cas, vous avez fait là un très beau travail d'historien utile pour aujourd'hui. C'est pas une chose qui sort de la naphtaline, quoi. C'est vraiment un travail utile pour aujourd'hui, pour comprendre aussi ce qu'on vit et peut-être trouver des solutions. Qui sait, c'est peut-être dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Nous terminerons cette émission sur cette plaisanterie de potage, en remerciant les auditeurs d'avoir bien voulu nous supporter jusqu'à cette heure tardive et en leur donnant rendez-vous s'ils le veulent bien dans 15 jours, puisque mercredi prochain, comme je l'ai dit, c'est le professeur Lugan qui sera de service pendant 3 heures, mais moi je retrouverai bien sûr les auditeurs qui accepteront d'y venir à ce dîner de l'amitié de la langue française que nous aurons le jeudi 7 novembre au Palais de la Mutualité. Dans 15 jours donc, et d'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 30 octobre 1996, diffusé dimanche 27 décembre 2015, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.